Hello les amis, je viens de dire coucou à Malo. Toute une histoire le stream à la maison. C'est aussi pour ça que j'ai un petit studio pour streamer désormais parce que donc là je suis en vacances. Dans cette pièce il y avait pas Malo ces derniers jours, mais Malo a dormi là cette nuit. Malo a dormi là cette nuit donc dans ce beau lit rouge derrière moi. Ensuite, alors moi je me suis levé tôt, j'ai lu les journaux. Il y a pas une info, il y a pas des cascades d'infos. Donc c'était lu assez vite. Je suis retourné dormir. Malo, ah bah c'est mon, à qui Malo demande Guando? Bah c'est mon fils aîné, c'est mon grand qui a 9 ans. J'en ai 3, 9, 6 et moins un an comme dit le cadet à propos du petit, puisque comme il a 8 semaines, 2 mois, il n'a pas encore un an. Donc, il a moins un an, ce qui n'est pas totalement incohérent dans cette manière de calculer. Donc, 9, 6, moins un an. Bon, les adultes, nous, entre nous, on dit 2 mois, parce qu'il vient d'avoir 2 mois. Et donc, l'aîné, ce matin, s'est levé. Non, alors je me suis levé. J'ai lu les journaux. Je suis venu me coucher avec Malo. J'ai refait une sieste d'1 heure. La belle vie. Les vacances. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé prendre une douche. Bref, je suis allé dire bonjour à mon beau papa. Petit café important, et je reviens. Alors, et je vois Malo qui est revenu ici. Petite aussi, il a le droit d'une petite siestoune. Ok, donc du coup, il a défait le lit que j'avais fait pour que ce soit joli pour vous. Bon, là, il est défait, peu importe. Ah, et puis surtout, il était au beau milieu de la caméra. Et ici, on montre pas les enfants. Eh oui, on a même une scène d'alerte spéciale ici qui est magnifique. Voilà, ça c'était mon ancien studio à la maison. Et là, il en manque un là. Donc le grand bleu, Malo, le cadet en rouge, Solal, qui a 6 ans désormais, 9-6, et le petit jaune Pikachu n'est pas mon petit dernier Pio, c'est Pikachu. Ça a été fait à l'époque où j'avais 2 enfants. Voilà. Et donc Malo était au milieu du lit là. Et je dis, bah Malo, c'est pas possible, on ne montre pas les enfants ici. Donc il s'est décalé complètement. À l'extrême droite, on ne parle pas de politique, hein. Je parle bien de position dans le lit. Faut pas déconner. Donc il s'est décalé complètement à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, je savais pas comment on regarde hein, en plus. Voilà. Et je lui ai dit, écoute, tu ne montres pas ton visage, par contre, tu veux faire un petit coucou à la caméra avec ta main, bien sûr. Ça, c'est possible. Voilà. Et tout ça pour ça, pour qu'il me dise à 30 secondes de l'allumage de la caméra, bon, ben, je vais au petit-déj. Donc, il est parti. Voilà. Les aventures du stream à la maison. Sachant qu'on est à la maison au Maroc, puisqu'une partie de ma famille vit au Maroc, et donc j'y viens de temps en temps, hein, et donc c'est forcément un peu moins installé qu'à Paris, avec le setup est un peu léger, c'est le setup de voyage, quoi. Et ce matin, c'était bizarre. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, ça se passe bien en termes de son et d'image, mais moi, j'ai des trucs bizarres. Ça, j'arrive pas à afficher mon dashboard sur Internet, par exemple. Alors, j'ai OBS, voilà. Mais j'ai l'impression que, pourtant, j'ai fait un test de débile à Internet, c'est plutôt OK. Mais j'arrive pas à afficher mon dashboard. Mais j'ai le chat. Oh, il y a juste le chat qui est cassé. Oh merde. Oh non, il n'y a pas le chat à l'écran. Ah ouais, ah. Ah bah ouais, j'avais pas vu. Vous me disiez que tout allait bien, mais non, ça marche pas, il n'y a pas le chat. C'est pas grave ça. Bah si, je peux lancer, je peux quitter OBS et relancer. C'est vous qui voyez. Vous n'avez pas le chat à l'écran en fait, c'est tout. Ouais, remarque, exceptionnellement, on peut ne pas le mettre, hein. Tant mieux pour moi, je n'aime pas quand il y a le chat à l'écran. Ah, une heureuse. Ok. Il fait nuit au Maroc? Non, mais j'aime bien me créer une petite ambiance un peu chill. On peut faire sans? Voilà, vous pouvez le mettre. Oui, c'est vrai. Ok. Sinon, je cut et je relance, hein. Il fait chaud aujourd'hui? Oui, il fait assez bon là. Il fait assez bon là. Tu peux pas juste actualiser la source? C'est-à-dire de OBS? Hein? Ah! Fais voir. Hein? Bah là, la source, je l'ai l'URL de la source dans OBS. Qu'est-ce que tu entends par actualiser la source? Elle est. Je sais pas si on peut pas actualiser en tant que telle. Je vois pas ce que tu. Ouh! Perf de fer. Ah oui, perf de fer, bien sûr, Ariette. Eh oui. Ah oui, mais il faut du fer, ouais. Tu as pas un petit bouton actualisé contre. Non, il n'y a pas de bouton actualisé, non. Non. Active et désactive le chat sur OBS. Marche pas comme ça. Il y a pas ça. Il n'y a pas activation, désactivation du chat. Ouais. Ça, c'est le moment où les ingénieurs entrent en transe là. Chacun avec des propositions différentes. J'adore ça. Testons le sommaire, ça c'est important. Tout petit sommaire. Tiens, bah, hey, vous savez quoi le sommaire du coup on pourrait le mettre là? Eh, hey, regardez. Eh hey. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles d'ailleurs, parce que je sais que certains streamers. C'est pas mal, regardez. Si on met le chat à droite là, le sommaire à droite, à la place du chat. En vrai, c'est pas mal. Parce que il y a des streamers. Il y a des streamers qui ne mettent pas le chat à l'écran. Hein. Je sais que étoile le met. Moi, je suis école étoile. Moi, je suis école étoile. Donc, ça vient de là, en fait. Hein. Pourquoi je mets le chat à l'écran? Mais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais j'aime bien aussi en replay que les gens aient le chat aussi. Ponce ne le met pas, par exemple. Pour moi, le chat est cool pour les rediffs YouTube. Exactement, exactement, exactement. Ça ne sert à rien de le mettre en live, c'est utile que pour les VOD, exactement. Par contre, je pense que je sature un petit peu. Vous entendez le son? Je vais peut-être, avec votre accord, je vais baisser un petit peu le micro. Je sens que ça sature très légèrement. Vous entendez? Bon, on est en début de live, on en profite pour faire les réglages. Hein? Ouais, je baisse un peu. Voilà, je pense que là, ça a moins saturé. Voilà. C'est trop pro, c'est pas vraiment un setup vacances, ouais. Non, mais en ce moment, bon, là, c'est. Voilà, c'est le. Moi, par exemple, je sais que le Maroc est un pays dont je suis tombé amoureux il y a très longtemps, quasiment en même temps que mon épouse, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir ce pays que je ne connaissais pas. Et je suis amoureux du Maroc, c'est un très beau pays. Mais en termes de. Il y a des. Voilà, par exemple, ici, là où je suis, il y a la fibre, mais il y a. Voilà, il y a un matin. Disons que les accidents de débit sont plus importants. Je parle toujours accident de débit, je parle pas de moi, je parle toujours d'Internet. Ils sont plus nombreux ici qu'en France. Voilà. Et donc, et moi qui suis un artisan, vous savez, un amateur de la belle chose, de la belle ouvrage, ça me saoule. Enfin. Bon, je suis saturé un peu, mais c'est à cause du boulot, me dit le lurker sur la route. Tu routes? T'es sur la route? T'es genre routier? Plutôt Maroc ou Corse? Ah, la Corse, j'adore. À la Corse, je kiffe. Et en Corse, là où je vais tous les mois de juillet, hein, depuis. Pouh, depuis. Je pense qu'on va dans le même coin en Corse depuis genre 7 ans. Là aussi, j'ai la fibre. Et ça marche bien. Voilà, avec un câble RJ de 50 mètres. Chaque année, j'arrive à le perdre chaque année. Vous voyez un câble RJ de 50 mètres? Vous voyez à peu près? Chaque année, j'arrive à le perdre. Chaque année, je le rachète. Je sais pas ce que j'en fais. Je sais pas si je le bouffe ou quoi. Voilà. Mais ça marche bien. Ouais. À la Corse, j'adore. Oh. Merci. C'est quoi ce message d'une gentillesse? Merci, Stessix9516. Je ne lis pas ton message. Il est trop gentil. Après, je vais rougir. Mais d'autant que je suis déjà un peu rouge avec cette lumière. Mais. Merci beaucoup. Comment tu arrives à perdre ça? Je sais pas. Alors il y a un monde où je l'ai laissé, où je l'ai caché dans un placard, dans la maison qu'on loue, parce que je ne suis pas propriétaire en Corse, c'est une maison que je loue. Chaque mois de juillet, on est tombé amoureux de la Corse et de cette maison et de la région. Notamment comme m'a fait découvrir un pote d'enfance qui, lui, a une maison là-bas. Il vient chaque été, ce qui me permet de le retrouver. Un copain, quand je dis pote d'enfance, c'est copain d'école, quoi. Avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants. Donc c'est un peu laisser les retrouvailles, passer un bel été. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Oui, parce qu'on loue cette maison. Et il y a un monde où j'ai laissé le câble dans un placard. Voilà. Mais je vais le racheter quand même. Hein. Après, c'est pas ça qui est cher, un câble RJ. Même à 50 mètres. Puis comme ça, je sais qu'il fonctionne. C'est peut-être un câble sans fil. Ah, peut-être, Olivier. Merci, Géosmine, pour le soutien. Ton pote d'enfance a 7 câbles de 50 mètres. Non, non, je pense que je les laisse dans la maison que je loue. dans le espèce de petit placard technique. Mais comme j'ai pas de mémoire, il y a un monde, je vais le racheter quand même. Par contre, l'avantage de ce petit stream encore, c'est là, en ce début mai, puisqu'on est passé en mai, c'est que ben, mon setup fonctionne. Là, par exemple, on est passé en mode très light. Morena Folk, je vais m'excuser dans un instant. Je reviens vers toi. Et je vais m'excuser pour hier, parce que hier, il n'y a pas eu de revue de presse. Donc, j'ai une petite caméra Logitech vraiment de première génération. Bon, qui fait son taf, quoi. On a une image. On a le petit PC portable. Bon, on va pas faire un championnat de FPS avec ça, mais ça fait son taf. La table de mixage, c'est celle d'habitude. Pourquoi je sature cette table de mixage alors que j'ai la même table de mixage et les mêmes réglages et le même micro que d'habitude? Tiens, ça c'est un sujet, ça. Ça doit venir du PC. Voilà. Et donc c'est ce setup-là qu'on emmènera en Corse. Parce que, donc, attention, cette année, c'est vraiment les grandes vacances. Hein. C'est le luxe. Hein. Donc vous avez l'habitude que je parte en Corse en juillet chaque année depuis longtemps. 5 semaines cette année. Cette semaine, on profite du fait que Hélène soit en congé maternité. Donc elle est pas au taf, quoi. 5 semaines. La Corse, c'est 5 semaines cette année. C'est la dernière semaine de juin et les 4 semaines de juillet. Bim, bam, boum. Comme disait la chanson. Oui. Eh oui. Donc il y aura 5 semaines de revue de presse. Assez peu de gaming, je pense. En juillet. Juin-juillet. Combien? Ah, tu me tentes, tu me tentes, tu me tentes. 5 semaines. Ouais, je sais. Ça va être incroyable. Et puis là-bas, le setup, il est d'une stabilité incroyable, quoi. Donc on aura beaucoup, beaucoup de revues de presse. Et en plus, on sera. Salut John Le Goéland. Ah mais putain, j'ai pas les subs à droite. Ah, mon fil d'actualité marche pas. Attends, attends. Filtre. Ah putain. Et je les ai pas non plus à John Le Goéland. Jean Le Goéland. J'ai pas les. Ah, il n'y a plus rien qui marche, ouais. C'est tout cassé. Donc je vais le fermer pour voir. Oh, c'est sûrement cassé de chez cassé. Hein. Chat sub, statistique. Non, ça c'est autre chose, statistique. C'est moi qui fais du bruit, en fait, pas attention. Hein. Réinitialiser, donc surtout pas, surtout pas, surtout pas. Sub, on va faire ça, mais ça marche pas. Ah si, là je l'ai là. Oh! Du coup, j'ai pas remercié Miel35 pour le deuxième mois. Sébafil pour le 52e mois. 52e mois de soutien consécutif, vous vous rendez compte ce que ça fait? Chabalbert 13 pour le 8e mois. Ouais, je vous ai pas remercié tout à l'heure, c'est parce que je vous avais pas. Ok. Donc, Corse, ça va être formidable. Et alors, voilà, j'ai deux annonces à vous faire. Merci d'être là en ce samedi matin. Oh, alors, attends, je vais revenir sur un message. J'avais dit que j'allais m'excuser pour mon absence d'hier. Oh, j'ai même trois annonces à vous faire. Allez, c'est parti. D'abord, je vais revenir sur un message qui évoquait mon absence d'hier. Je voulais m'excuser. Morena Folch. Coucou Samuel, hier j'ai cru qu'il y avait la revue de presse et j'ai attendu. Oui, normalement vendredi, hein, toujours. Hein. Contente de te retrouver. En plus, je suis à l'hôpital. En ce moment, ça fait du bien. Pardon. Déjà, je t'envoie de la force pour l'hôpital. Miel35, merci pour ton message qui fait bien plaisir. Et alors, pourquoi hier? Bah, hier, en fait, j'ai été optimiste. J'ai eu 1er mai. 1er mai, dans mon souvenir, il y avait quand même des journaux, quelques journaux, genre un Parisien, un Libé, allez, un Figaro, soyons fous. Il y avait le Monde de la veille. J'ai la matière. 1er mai. Il y a la matière. Pas du tout. Il y avait Le Monde de la veille, mais il n'y avait pas Le Parisien, il n'y avait pas Libé et il n'y avait pas Libération. Je me suis escrimé, je suis allé fouiller les fonds de tiroir, je suis allé sur Internet, je suis allé sur Mediapart, je suis allé sur le Huffington Post. Non, il n'y avait pas la matière pour faire une revue de presse. Donc, faites du travail, faites du travail. Ben, je me suis, voilà. Moi aussi, j'ai fait la fête du travail. En ne travaillant pas. Donc voilà. Et je m'en excuse. Merci Lulu Suisse Berlu. Voilà. Donc, du coup, parce que je voulais faire au moins 5 revues de presse depuis le Maroc, et du coup, je fais celle-ci pour rattraper celle d'hier. Voilà. Le Huffington Post, c'est un journal, c'est un site d'info sur Internet, exclusivement sur Internet, qui, ma foi, est plutôt bien fait. Qui, ma foi, est plutôt bien fait. Qui est assez réactif déjà. Qui a cette qualité d'être assez réactif. Donc, on rattrape ce matin. Et il n'y a pas mille trucs, hein, mais il y a des trucs. On va faire des points sur les trucs en cours. Point sur l'Ukraine, point sur l'Iran, point sur la présidentielle, point sur la présidentielle, point sur la présidentielle. Voilà, je n'ai pas trouvé 1 000 trucs, hein. Mais ça va être sympa. Trois annonces ce matin. Trois annonces. D'abord, félicitations, vous avez fait une dinguerie, on en reparlera à la fin de ce stream. Point d'exclamation, pétition dans le chat. Pétition à la faveur d'une revue de presse cette semaine et d'une une et d'un dossier du Parisien sur les féminicides en France. Excellent dossier du Parisien. On s'est rendu compte de plein de choses. D'abord que le fléau ne reculait pas, que malgré des lois, des mesures, un peu de moyens, pas assez, eh bien le fléau des féminicides, c'est-à-dire les morts, pour en donner une définition la plus simple possible, morts de femmes par conjoint ou ex-conjoint, hein, pour faire simple. On s'est rendu compte que donc ce fléau ne reculait pas, malgré l'exemple espagnol qui, depuis 20 ans, a pris des mesures et a mis des moyens autrement plus importants que nôtres et ont réussi à faire reculer les Espagnols ce fléau. Voilà. Et on s'est rendu compte d'autre chose, qu'une pétition, elle est sous vos yeux, avait été lancée sur le site de l'Assemblée nationale par un homme, Monsieur Jacky Achoud, qui connaît bien le sujet, puisqu'il a perdu sa femme tuée par un ex-conjoint. Voilà. Il annonçait cette pétition. Pourquoi? Pas une pétition comme ça pour dire ah là là, c'est une catastrophe. Une pétition pour dire il faut que l'Assemblée nationale, il faut que le Parlement s'en empare de ce sujet. Et il faut qu'il y ait un débat à l'Assemblée ou au Sénat sur ce sujet via une commission d'enquête parlementaire. Alors, commission d'enquête parlementaire, on connaît bien désormais, on s'est penché sur le sujet via la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Donc maintenant, on en connaît bien la mécanique, on sait comment ça fonctionne. Et on s'est rendu compte. J'ai bien dit, alors les amis qui donnent d'autres définitions du féminicide, je viens de vous dire, ce n'est qu'une définition partielle du féminicide pour faire simple. Je ne peux pas être plus clair que ça. Une définition simple, simpliste, partielle pour dire aux gens de quoi on s'agit. Et tout le monde vient me donner sa petite définition derrière. Oui. C'est bien pour ça que je vous ai dit définition simple et partielle. Je continue. Et donc on s'est rendu compte d'autre chose, c'est qu'une pétition avait été lancée par ce monsieur pour créer une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, pour que on débatte enfin sérieusement de ce sujet en France, qu'on prenne conscience du fléau, un, du manque de peut-être de cadre législatif, deux, de moyens, trois. Et cette pétition, on s'est aussi rendu compte que, alors qu'elle avait été lancée depuis 4 mois, elle n'avait recueilli que 112 signatures. 112 signatures en 4 mois. Et ça, c'était il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a découvert, cette pétition. Il y a même des gens dans la communauté qui sont très mobilisés sur le sujet, qui n'en avaient jamais entendu parler, alors qu'elle est parfaite. Alors qu'elle est parfaite. Vas-y, mon capitaine, oui, tu peux l'épingler si tu veux. Elle est parfaite. Et on a commencé à en parler. On a en parlé en live. On l'a lu ensemble. On s'est rendu compte que son texte était parfait par ce qu'il demandait. Et je vous ai dit, partagez-la, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos créateurs de contenu préférés, à vos streamers, à vos streameuses préférées, parce que cette pétition, elle ne peut pas rester à 112 signatures. Objectif 100 000. Je crois qu'à partir de 100 000 signatures, elle est mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale pour plus de visibilité. Objectif 100 000 signatures, objectif 500 000 signatures. Chiffre à partir duquel l'Assemblée peut s'en emparer pour faire un débat dans l'hémicycle. Donc, on est parti de 112 et on est arrivé à 5808. Alors, 5808 par rapport à 100 000 et 500 000, c'est ridicule. Mais 5808 en 2 jours, alors qu'on est parti de 112 signatures, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que les gens ont lu cette pétition et l'ont trouvée pertinente. Donc, voilà, je vois qu'on se félicite de ça parce que c'est une petite réussite collective. Et n'hésitez pas, donc vous avez le lien en haut, hein, le copier-coller. Merci Eowedien. Merci Nat de Laser pour les soutiens à l'instant. N'hésitez pas à la copier-coller, d'abord à la lire, hein, pour voir si vous la validez vous personnellement. Moi, je la trouve très bien écrite. À la copier-coller et à la diffuser autour de vous, à en parler à vos amis, à vos proches, à votre famille, à les inciter, pas forcément à la signer, d'abord à la lire. Il ne s'agit pas de signer n'importe quoi, de la lire. Et s'ils sont d'accord avec la philosophie de cette pétition, de la signer et de la diffuser autour d'eux. Je crois que les petites rivières parfois arrivent à former de grands fleuves. C'est aussi un des aspects les plus intéressants d'Internet. Donc moi je crois qu'il peut se passer quelque chose. De toute façon, sur ce genre de sujet, même si, imaginons que cette pétition ne débouche pas, par exemple, sur un débat, ne débouche pas sur un débat à l'Assemblée. Le simple fait de s'être mobilisé, d'en avoir parlé autour de nous, eh bien, ça veut dire que ce sujet, nous allons l'aborder, vous allez l'aborder autour de vous, avec vos proches, et que ça veut dire que ça va faire progresser ce débat et cette connaissance du sujet. Voilà. Donc, imaginez si cette progression exponentielle pour passer de 112 signatures à 5808, je suis sûr si j'actualise, on est déjà au-delà, se poursuit dans les prochains jours, 5839, eh bien, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Donc, je dois me féliciter de ça parce que ça, c'est grâce à vous. Voilà. De toute façon, on en parlera régulièrement parce que je pense que c'est une petite mission qu'on s'est donnée de parler de cette pétition, hein, et de la faire sortir un petit peu de l'ombre. Ah, merci. Docteur John Tech me dit: Bonjour Samuel, sache que Ponce a relayé la pétition sur son stream, ça fait beaucoup grimper. Bah voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Merci Ponce. Merci à sa commu. Deuxième chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme annonce? Pourquoi j'ai trois annonces? Qu'est-ce qu'il y a comme annonce? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme annonce? Un peu. C'est quoi l'autre annonce? Ah oui! Claradoxal aussi? Ouais, c'est formidable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La Corse, on en a parlé. J'ai trois annonces, ouais. Alors, la deuxième, je sais, c'est lundi. Publication du rapport à l'oncle sur justement sur le travail de la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, lundi. Donc là, on se penchera lundi. Alors lundi matin, je pense que ce sera trop tôt, mais dans la journée de lundi, sur le contenu de ce rapport. On parle de 300 à 400 pages, on ira voir ce qu'il y a dedans. Hein. Et puis on en parlera. Alors, est-ce qu'on fera un stream React sur le rapport? Est-ce qu'on fera par exemple un stream lundi soir uniquement consacré à cette commission? C'est pas impossible. Est-ce qu'on le fera le mardi soir? Voilà. Est-ce qu'on en parlera le mardi matin? En tout cas, le début de semaine sera placé sans doute sous le sceau, sous le signe, sous le placé sous la. Bref, on en parlera quoi. Et en fonction du contenu de ce rapport, sous le signe? Sous le signe. Il pourra peut-être se passer quelque chose. Voilà, ça c'est la deuxième annonce. Un truc secret, un truc mystère dont je ne peux pas vous parler, bien sûr. Un truc de shinobi, un truc de ninja, un truc de tapis dans l'ombre. Un truc de guépard planqué dans un buisson la nuit, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, on en parle en début de semaine. Ok. Un truc qui doit vous faire plaisir. Alors, la troisième annonce, c'est quoi, bordel? Ah si, 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 si! Ah si, si, ça y est. Bah si, 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 encore plus important. Ah, sous l'égide, bravo, Clarem, oui, sous l'égide de, bravo. Non, bien sûr, j'ai pris une bonne résolution. Voilà. Mon corps est devenu un petit tas de sindoux. Sindoux, peut-être de graisse qui peut remplacer dans la cuisine, par exemple. Donc voilà, une petite motte de beurre, pour faire simple. Mon corps est devenu une petite motte de beurre, une petite pyramide. Vous savez, parfois, le beurre est présenté sous forme de pyramide, comme ça. Voilà. Parfois, elles sont électriques, les pyramides, ça c'est une autre histoire. Et donc, voilà, mon corps est devenu une petite motte de beurre. Parce que l'addiction au stream, parce que voilà, aujourd'hui, entre aller faire du sport comme avant et streamer, ben aujourd'hui, je préfère streamer parce que c'est meilleur. Alors, et Dieu sait pourtant si j'étais accro, pour ne pas dire atteint de bi, comment on dit bigo, bigo, bi, c'est quoi l'addiction au sport là? Bigo, la bi, merde, la bi quelque chose. Merde, cette phrase est bizarre. La bigorexie. J'étais parti sur autre chose, j'étais parti sur un bi quelque chose, mais je savais que j'étais sur un terrain glissant. Voilà, moi je pense que j'ai atteint de bigorexie à une époque, c'est-à-dire de l'addiction un peu excessive au sport. Non, pas bigorno, non. Merci Targaire91. Et donc, et alors, pour montrer à quel point le stream c'est addictif, parce que c'est vrai que ça a participé du fait que. Je fasse moins de sport, voire zéro. Donc j'ai un peu arrêté le sport. Physiquement, je commence à le ressentir. Enfin, je me traîne, le souffle est devenu court, je m'essouffle rapidement. Le tonus musculaire sur une échelle de 0 à 20, est à moins 15 à peu près. Donc je me suis dit, Samuel, tu peux pas rester comme ça. Il te reste encore quelques années à vivre. Hein. à la louche une centaine d'années, à peu près, en plus, tu ne peux pas ne pas te reprendre en main. Ça commence lundi. Samuel, tu vas prendre des stéroïdes du coup. Non. Ça commence lundi. Voilà. Et j'en parle ici pour ne pas pouvoir reculer. Voilà. À partir de lundi, projet. Voilà, on va l'appeler projet Summer Body. On va l'appeler surtout projet remise en forme. À partir de lundi. À partir de lundi. Incroyable. Festival de musique au Maroc. Waouh! Je lirai ce message tout à l'heure, il est trop cool. À partir de lundi, nouvelle hygiène de vie. Vous pouvez clipper. La matinée in shape. Alors, je ne l'appellerai pas comme ça, mais ce rapport, c'est. Voilà. À partir de lundi, j'aurai la revue de presse tous les matins. Sauf que avant, j'irai courir. Parce que après, c'est foutu. Dans la journée, il y a les rendez-vous, les réunions, les Teams, les calls, la famille, le travail, etc. Donc c'est râpé. Il y a toujours une bonne raison de ne pas aller courir. Parce que mon pied c'est le sport. Non, mon sport c'est le pied. Enfin non, c'est pas ça. Mon sport c'est la course à pied. Voilà, c'est ça. Tous les matins, avant de streamer, je vais aller courir. C'est-à-dire que je lirai les journaux la veille au soir. Sinon, parce que si je les fais pas le matin, si je le fais pas le soir, je ferai le journal le matin, j'irai pas courir. Donc tous les soirs. Donc du coup, je vais peut-être un petit peu streamer. Je vais peut-être streamer un peu moins le soir. Voilà. Tous les soirs, je lirai les journaux jusqu'à, je sais pas moi, une heure du mat, quoi. Hein? Et tous les matins, j'irai courir. Mais pas en stream, pas en stream, non. Pour moi, juste pour moi. En stream, ce sera dans un deuxième temps. À partir de lundi, on sera combien? Quelle journée là? 2, 3, 4. Le lundi 4 mai, petit running tous les matins. Voilà. Ensuite, j'emmène les enfants à l'école.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Eh ben, très bonne question, très bonne question. C'est ben, justement dans la volonté de ne pas se laisser aller. Donc tous les matins, running, on emmène les enfants à l'école, on emmène les enfants à l'école, on fait la revue de presse, et après bon bah ça taffe, ça fait les trucs de d'habitude quoi. Voilà. Mais voilà, parce qu'en fait ça ne peut pas marcher sans un côté systématique. Et en mai et en juin, j'ai des projets, des trucs, il y a peut-être un petit peu de télé, il y a des machins. Eh bien on va se tenir à ça. J'ai des déplacements, à un moment je vais à Biarritz, eh bien tous les matins, tous les matins. Attention à ne pas te blesser, c'est tous les jours, c'est rude pour une reprise de la course. Non, mais je compte sur le fond, parce qu'il y a quand même une petite ancienneté en la matière. Voilà. Et puis on va y aller doucement. Au début, si vous faites 3 quarts d'heure, on fera 3 quarts d'heure. Hein. Voilà. En général, c'est plutôt 1 heure, 1 heure et quart, mais s'il faut faire 3 quarts d'heure, on fera 3 quarts d'heure. Voilà. Et puis, nouveau studio à partir de cet été, puisque je suis en train de préparer un nouveau studio de stream pour la rentrée, que vous verrez, je pense, à partir de septembre, peut-être de la mi-août, fin août, si on est rapide. Voilà. Et là, j'ai plus d'espace, et l'objectif, c'est de mettre un tapis de stream, un tapis de course à pied, où je pourrais faire un after de stream, par exemple. On pourrait imaginer que je fasse la revue de presse pendant 3 heures, par exemple, et au lieu de cut, bah après, hop, on bascule sur le tapis. On bascule sur le tapis et on se fait 1 heure de judge chatting, mais en courant. Voilà. Et vous aussi, vous courez. Ah bah oui, tout le monde court. Non, vous n'êtes pas obligé de courir. Pour retrouver un petit peu cette hygiène de vie minimale, quoi. Bravo, Mamstone. On avait un message du Maroc tout à l'heure, qui était sympathique. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un qui est au Maroc, qui fait un festival de musique. Où est-ce qu'il est? J'espère qu'il n'est pas trop haut. On va le retrouver. Ah voilà. King Polo, bonjour Sam, j'ai quitté Paris il y a 14 ans pour m'installer au Maroc. Bah t'as bien raison. Il organise des festivals de musique, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. D'ailleurs, les 14, 15, 16 mai, j'organise le Timeless Festival à Casa. Putain, je connais pas Casa. Avec MC Solar, Busta Rhymes, Vita. Si toi et ta petite famille, vous êtes encore dans le coin, je serais ravi de vous inviter. Bonnes vacances au Maroc. On sera plus dans le coin parce qu'on rentre demain. Demain matin. Mais c'est cool en vrai. C'est cool en vrai. 14-15, c'est quoi? 14, c'est quand ça, 14-15-16? 14-15-16, c'est quand 14-15-16 ça? Il y a un monde où je fais des trucs, mais sinon moi je fais l'aller-retour. Hein. À la nage. Si on se remet au sport. Fais voir. Agenda numérique papier. Attends, hop, je vais réactualiser le Chat, les subs, parce que je ne les vois pas. Hop. Et je remercie. J'ai tout le monde ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. 14, 15, 16? C'est quand? Qu'est-ce que j'ai là? Je suis sûr qu'il y a un truc. Mai, 14. Ah, mais la Zidane! Mais la Zidane. Mais je le fais pas. Cette année. 14. Ouais, c'est ça, c'est le week-end de la Zidane. Ah, mais je suis à Besançon, je suis à Bezac. Non, je suis à Bezac. Je suis à Bezac. Je suis à Besançon. Je suis un peu franc-comtois aussi, du côté de mon amoureuse. Ok, et j'emmène mon setup d'ailleurs. 13, mercredi 13, 13, 14, 15, 16, 17, je suis à Bezac. Avec le setup. Avec ce setup-là. Il y a de la fibre. Hein? Qui? Il y a une porte qui s'ouvre. Ça va, Malo? Attention à la caméra. Hein? Là, si vous passez là, on ne vous voit pas. Il y a Hélène qui existe, qui est la maman de nos trois enfants, mais qui se cache. Et il y a Malo qui. Tout le monde te dit bonjour, Malo. T'es trop mignon. Non, mais. Et bonjour, Hélène aussi. Et du bonjour, Hélène. Hélène dit bonjour, tout le monde. Je ne sais pas si vous entendez. Elle existe, elle existe. Ça cherche un cahier de poésie, je crois, c'est ça? Ça bosse. C'est pour les devoirs? Ton dessin de poésie? Wow, dessin de poésie. Pauvre enfant qui travaille pendant les vacances. Il y a les contrôles du deuxième semestre, me dit Hélène. Eh oui. Eh oui, le bac approche. Il est en CM1. Qui? Soleil ou Pio? Soleil, c'est bien ça. Comment ça se fait? C'est incroyable. Il dort bien ici. On va le laisser. Soleil, elle dort toujours. Quelle heure il est? Il est 10h26 à Paris, 9h26 ici. Il dort toujours. Oui, il dort. Le Solal, c'est le cadet, il a 6. Il dort. Il dort beaucoup. C'est le dormeur. Voilà. Donc voilà. Ah. Je me demandais pourquoi Ichin 94 avait pris un Théo. C'est mon plaisir de lire les historiques. Oui, oh, Dragonwell avait deviné. Petite historique, ouais. Je me demandais pourquoi Ichin 94 avait pris un Théo. Il avait pris un petit peu d'avance sur le débat politique. Avec une orthographe, bon, un peu personnelle, mais bon, c'est pas pour l'orthographe qu'il a été sanctionné. Donc voilà. Donc les trois projets. Alors qu'est-ce que rappelons-nous. Donc lundi. Je vous annonce peut-être un truc, ou mardi, en rapport avec la commission à l'oncle, on va voir. C'est un truc. Il y a le projet remise en forme à partir de lundi. Et le troisième. Et c'est quoi le troisième projet? Je sais plus. Oui, le projet studio. Ah oui, projet studio, donc avec le tapis de running. On va essayer de faire ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Salut, t'en penses quoi de la polémique Thibaut InShape Grigny? Je vais vous dire ce que je pense de la politique Thibaut InShape Grigny, le Gaëtan. Je vais te le dire. Rien, parce que je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Je ne suis pas au courant. Sam, tu peux juste tenter ça sur OBS, sur ta source web du chat. Clic droit propriété. Rafraîchir le cache de cette page. Non, j'ai pas. Il me propose pas priorité, propriété. Il me propose pas ça. Ah, propriété, attends. Bah non, 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 propriété, je sais y accéder, mais j'ai pas à rafraîchir le. Ah, si, en bas, j'ai rafraîchir le cache de cette page, t'as raison, j'avais pas vu. Propriété, j'y étais depuis tout à l'heure, mais j'avais pas vu rafraîchir. Je rafraîchis. Ouais, je rafraîchis, et je pense qu'il se passe rien. Ouais. Bon, c'est cassé, c'est un peu cassé, je pense. Regarde. Non, oh, y a rien. C'est pas grave. Bonjour Sam, j'aimerais passer une petite dédicace pour envoyer plein de force à mon papa et à ses deux amis Francis, Pascal et Willy, qui partent faire le chemin de Compostelle force à eux tout en récoltant des dons pour une association de lutte contre le cancer infantile. Bravo à eux et bon courage à eux. C'est très beau ça. Merci Alexandra, c'est adorable. Si un jour tu stream tes runs du matin, ça peut être pas mal, histoire de motiver. Ouais, mais c'est compliqué de streamer en courant sans un minimum de setup. C'est-à-dire, si tu cours uniquement avec un iPhone à Paris, on l'a déjà fait, avec un matos minimal, ça va cut sans arrêt. Il faut au minimum un agrégateur de flux, type, vous savez, les boîtiers là, qui peuvent agréger deux ou trois cos qu'on utilise avec Joe en stream IRL, musée par exemple. Il faut minimum ça. Voilà. Et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Je vais pas embarquer Joe chaque petit matin pour aller courir. Il me le pardonnera pas. Et puis c'est trop lourd. Il faut que ce soit léger. Il n'y a pas de matos suffisamment léger et stable. Ça fait 5 ans que j'essaye. Hein. Aujourd'hui, pour pouvoir streamer comme ça tous les matins, du running. Du running. Si tu streamais en extérieur dans un endroit sans trop bouger, c'est assez easy en fait. Mais du running, notamment à Paris, par exemple, un truc tout bête, à Paris, c'est bourré d'ambassades. Dès que tu passes près d'une ambassade, t'as plein de brouilleurs qui cut le live. Ça, c'est un truc tout con, hein, mais voilà. T'es limite plus tranquille. En Bretagne, quand j'étais à Rennes, je faisais des footings près d'une rivière, là près de chez mon papa. On était moins emmerdés, hein, je pouvais streamer une heure et demie, 2 heures sans être coupé, quoi. Voilà. Paris, c'est plus compliqué. Ouais. Ah, j'avais raison. Sur quoi? Regarde ton chat. Quoi? T'avais raison sur quoi? Attends, je regarde ton historique. Sugar me dit qu'il a raison. Ce serait bien une première fois qu'il a raison sur un truc. Sur ta scène OBS. Ça a marché? Ah, il a récupéré le chat. Il est fort. Ah, ah merde, j'enlève le sommaire alors. Ah ouais, il a réussi. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort. Eh ben, on a trouvé un nouveau truc pour que ça marche alors. Incroyable, incroyable. Il est trop fort. Il est fort, il est fort. Je sais pas si t'as vu Citron Violet qui fait Tokyo Osaka en vélo en stream IRL. Oui, et puis aussi il y a l'ami Monody aussi qui fait du vélo en ce moment là pour une œuvre caritative pour la lutte contre le cancer justement. Mais à mon avis, ils sont en. Comment s'appelle le boîtier déjà qu'on utilise pour agréger des connexions? Comment s'appelle, tu sais, le pack, merde, le pack, pas pack de bière, un truc comme ça. Non, pas Starlink. Non, non, Starlink n'est pas un agrégateur de. Le TVU, oui, le pack. Ah, c'est le backpack, ouais. Voilà. Non, pas le six pack. Backpack. Le live view, voilà, c'est le live view précisément. Qui peut permettre d'agréger, d'additionner des connexions. Par exemple, une co Orange, une co Bouygues, une co SFR. Voilà. Là, et donc, ça veut dire. Voilà. Ou alors, maintenant, il y a la solution qui est intéressante aussi, qui est la solution, effectivement, Starlink. Avec un. Alors, c'est pas vraiment un routeur, parce qu'un routeur n'additionne pas des connexions. Je crois pas qu'un routeur additionne des connexions. Mais Starlink, c'est intéressant. Starlink, ils ont développé récemment du matos pour recevoir de la co-Starlink satellitaire en mouvement. En mouvement. Voilà. Alors, pour les bateaux, pour les poids lourds, pour les camping-cars, etc. Mais là, à emporter, c'est encore un peu lourd. C'est encore un petit peu lourd. Mais forcément, donc il y a un moment, on aura du matos qui nous permettra de faire ça. Hein. S'il y avait un système fiable et léger, il y aurait de toute façon plus de stream running déjà existants, étant donné la popularité de la discipline, bien sûr. Alors nous, ça fait quand même 5 ans qu'on en a fait ici. Hein. On a fait avec l'iPhone à l'arrache. Bon, à Paris, c'est impossible. À la campagne, ça passe. On a fait avec le Live View. On a quand même fait le semi-marathon de Paris, 21 km, avec Joe, propre. Mais bon, voilà, c'est lourd à emporter. Il faut prévoir quelqu'un à la réalisation pour qu'il soit derrière le PC et que le message de le signal de stream ne parte pas du boîtier LiveView, mais bien d'un PC en régie extérieure. Comme ça, si ça cut, plutôt que de crash le stream, la personne, c'est Pépin qui faisait ça, récupère le live et fait patienter les viewers quelques secondes, quelques minutes, le temps de relancer le live view. Mais c'est lourd, quoi. S'il y avait une solution simple et légère aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de stream IRL. Certains encodeurs comme LiveView ou AV West permettent de faire du bonding. Bonding, c'est pas avec des cordes très serrées. Agrégation de plusieurs connexions pour en faire une seule. Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec Joe. Depuis des années déjà. Adresse-toi à Ken Bogard, je le connais bien mon Ken. Il dispose d'une solution allégée pour faire son stream IRL en vélo. C'est une solution qui peut également être embarquée en sac à dos réduit. Alors je ne connais pas la solution utilisée par Ken, mais à mon avis, Ken, il utilise un live view. Hein. Je vois pas ce qu'il a d'autre. Hein. C'est pas gros un live view, hein. C'est gros comme ça. Hein. D'abord, c'est un certain prix. Après, il faut une batterie pour faire tourner le live view et le son. Je suppose qu'il a un micro HF ou un truc comme ça. Et l'image. Donc c'est à partir de là où ça commence à peser lourd. Donc ce qui peut se caler sur un vélo, en course à pied, faut le porter, c'est un peu plus lourd. Et puis, tu as aussi les secousses. Tu as aussi les secousses. En vélo, tu as une stabilité qui fait que tu ne secoues pas trop ton matériel. Il utilise une Bella Box qui tourne sur un mini PC très compact. Oh le bordel! Une Bella Box, c'est quoi ça? C'est intéressant. Je vais aller voir. Bella Box? Bella Box, c'est pas l'héroïne du film avec les vampires, là? Plutôt, là? Non, c'est pas ça, non? Bella Box by Gims. Ah oui, je connais, ouais. Un article. J'ai trouvé un truc là. Marrant, ça je connaissais pas ça. Bellabox is a software package for turning boards. It connects an efficient support. Bah bonding. Il y a du bonding avec des cordes. Dynamic bitrate. Ok. Ah il utilise ça. Il réencode son flux vidéo pour que son... Oh, il réencode son flux vidéo pour qu'il consomme moins de data. Oh le bordel. Oh le bordel. Bellabox. Bellabox est un logiciel permettant de transformer des cartes telles que l'Orange Pi 5 Plus par exemple en un encodeur vidéo performant pour la diffusion en direct en extérieur via les réseaux mobiles 3G, 4G, 5G. Ah, je connaissais pas ça. Ah, bah, je connaissais pas. Mais bon, ok. Et c'est bien, il est très stable et il est ok en qualité ou pas? D'ailleurs, c'est pour ça que. Donc je parlais des secousses en courant. En vélo, t'as pas ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait des streams en courant, c'était avec une poussette de running transformée en poussette de streaming. La poussette en portant le support caméra, les supports son, le boîtier Live View, la batterie. Ah, non, qu'elle a des problèmes parfois. Ouais, c'est un peu fragile ces solutions techniques. Ah, ce qui permet de donner une stabilité à l'ensemble et d'avoir une certaine masse qu'on peut emporter. Ouais, et après, pareil, s'il faut des streams vidéo à la campagne, c'est pas la même qu'à Paris. Voilà. Non, pour l'instant, on n'a pas de connu. Moi, je crois beaucoup à la solution Starlink. Voilà. Je pense que l'avenir du stream IRL, c'est beaucoup plus la connexion satellitaire type Starlink. Voilà. Je crois que Orange est en train de bosser sur une solution aussi, je crois. Et là, ouais, il y aura moyen de faire des trucs. Il faut pas se trimballer qu'une antenne satellite. Ouais, si, si, mais ils ont développé une solution avec un truc assez. C'est du Starlink portable, assez petit. Assez petit, assez petit pour l'instant. Enfin. On n'en est pas là. Donc, tout ça pour vous dire que le running du matin à partir de lundi, ce sera pas à l'antenne, ce sera pas en stream. Ah oui, Starlink, c'est Musk, bien sûr, je sais. Et puis c'est la pollution au niveau de l'espace, je sais, tout ça. Eh oui. Après, peut-être qu'il y a des alternatives qui vont se développer. Merci, Volodrone. On va y aller, Volodrone. Ouais. Il y a Volodrone qui m'engueule un petit peu gentiment. À quelle heure ça commence, lecture des infos? Oh! Normalement, la règle, c'est 30 minutes d'intro. Et si on vient de se faire. Faites pas attention, c'est moi qui fais du bruit. On vient de se faire une intro de 49 minutes. Vous n'êtes pas sérieux, hein. Vous n'êtes pas sérieux, hein. C'est moi qui fais du bruit. Non, mais oui, bien sûr que c'est de votre faute. Bah oui, excusez-vous, bah oui. Bon, j'arrive plus à afficher les subs. Et on n'a pas parlé moto. Ah oui, c'est vrai. Non, mais la moto, je vais pas le faire. Dans les projets d'acheter un sidecar, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est des sous, c'est des sous. Un sou est un sou. Voilà. C'est dangereux. Et puis, de toute façon, j'ai de l'arthrose, j'ai de l'arthrose dans les cervicales. Donc, voilà, la moto, c'est fini. Voilà. Je peux plus tourner la tête. Voilà. Voilà, c'est bien simple. Je ne peux. Merci Flo Bibi. Ah, j'ai réussi à mettre les subs. Merci Lulu Suisse Berli. Berlu. Merci Chris Chiara. Pardon, je ne vous avais pas. Hein, c'est cassé. Mon OBS marche moyen. Merci Soleas 12. Merci EO Indien. Voilà, des habitués. Des fidèles, merci Nat de Laser, merci Flo BB5. Je ne peux plus tourner la tête. Voilà, voilà, je peux faire ça. Je peux faire ça. Voilà, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Voilà, c'est foutu. Eh oui, c'est ça la vieillesse. C'est ça la vieillesse. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant que je peux regarder un écran, je peux streamer, quoi. C'est à cause de Valorant? Non, c'est à cause de l'arthrose. J'ai l'arthrose dans les cervicales depuis très longtemps. Tu as du mal avec les extrêmes en fait. Me dit Silas Castrali. Avec Samuel, il faut que ça file droit. Ah bah j'ai pas le choix, hein. Je peux ni filer à droite ni à gauche. De toute façon, je ne peux plus regarder ni à droite ni à gauche. Donc, voilà. Donc, et en moto, les motards du chat, vous le savez, ce qui est important en moto, c'est pour la sécurité, le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle direct. Tu as un coup d'œil dans le rétro et un contrôle direct où tu dois tourner la tête, je peux pas le faire, hein, je le fais pas, où tu dois tourner la tête pour. Là, ah, j'y arrive, j'y arrive. Pour regarder dans ton angle mort et savoir s'il y a quelque chose. Tu tournes à gauche, contrôle direct à gauche. Tu tournes à droite, contrôle direct à droite. Bon. Vu l'état des cervicales, on va faire l'impasse sur le contrôle direct. Donc on va laisser tomber la moto. Pourquoi il fait aussi sombre chez toi? Parce que j'ai choisi cette atmosphère un petit peu dark. Parce que mon cœur est lumineux, mais mon âme est dark. Voilà. Voilà pourquoi. C'est tout. Bon, et si on commence la revue de presse un petit peu? Ouais, il serait temps, hein. Parce que vous êtes toujours à bavarder les bavards là. Vous êtes des bavards, hein, vous êtes des bavards. Qu'est-ce que vous êtes bavards? Allez, c'est parti, on va bosser un peu. Comme ça, il y aura une revue de presse à mettre sur YouTube et en podcast. Ok? Allez, on va mettre le sommaire. C'est parti pour le sommaire. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est en direct du Maroc toute la semaine. C'est la dernière revue de presse depuis le Maroc où j'étais parti voir ma famille. On est le samedi 2 mai 2026. Excusez-moi pour l'absence de la revue de presse hier, c'était le 1er mai. Et en vrai, il n'y avait pas de journaux. Pas de journaux, pas de revue de presse. Et je me suis levé pourtant, levé pour rien. Mais malgré un vrai espoir de mon côté, bah, derrière l'espoir, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de journaux, donc je ne vous ai pas fait de revue de presse et je m'en excuse. Donc on rattrape un petit peu ce samedi avec une revue de presse. Bon, il n'y a pas mille trucs, mais il y a des trucs. Merci à ceux qui sont en live sur Twitch avec moi. Merci à ceux qui nous regarderont en replay sur YouTube. Et merci à ceux qui nous écouteront en replay, en podcast audio. Tous les jours, la revue de presse du matin sur Twitch, elle est postée en podcast audio à partir de 15-16 heures l'après-midi. Merci à Mathieu qui s'en occupe cette semaine en l'absence de Vincent sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts. Alors, Qu'est-ce que j'ai dans l'actu cette semaine, enfin ce samedi? Voici le sommaire. Qu'est-ce qu'on a? On a la guerre en Ukraine. Parce que ici, une actu ne chasse pas l'autre, et on n'oublie pas cette guerre, ce conflit. Vous savez que dans cette matinée, je vous donne régulièrement des nouvelles, les dernières infos sur ce conflit, qui n'évolue pas beaucoup. Hein, mais c'est une manière de dire, voilà, on n'oublie pas qu'il y a cette guerre non loin de nous, sur le continent européen. Hein, et on a un dossier dans le Parisien sur l'Ukraine qui continue de résister, mieux que ça même. En Ukraine, les secrets d'une prouesse militaire annoncée comme un tournant, l'offensive russe de ce début d'année patine. Certains observateurs estimaient que ce début d'année 2026 pouvait tourner à l'avantage de l'armée russe en raison de la fatigue du peuple ukrainien, de la fatigue de l'armée ukrainienne, du manque d'hommes côté ukrainien, du manque de moyens, du fait que la hausse des cours du brut permettait à la Russie d'engranger des recettes avec le pétrole russe, etc. Que nenni, il n'en est rien. Hein. Sur le front Kiev, toujours plus ingénieux et autonome, regagne même du terrain par endroits. Voilà, donc on va se pencher sur ça, spécifiquement sur la stratégie militaire ukrainienne, hein, et notamment le fait que en l'espace de quelques années, puisque le conflit dure depuis un moment déjà, eh bien, l'Ukraine a réussi à réinventer son industrie militaire. L'Ukraine qui achetait l'essentiel de son armement au début du conflit et qui maintenant produit l'essentiel. Et aussi a inventé une nouvelle forme de guerre moderne avec notamment l'utilisation de plus en plus de drones et maintenant de robots. Donc on va se pencher sur ça. On fera un point sur un autre conflit sur l'Iran. Voilà. Où on en est? Ben, nulle part toujours. Voilà. Le conflit qui continue de s'enliser. Nous explique ce matin le Huffington Post. Donald Trump, c'est la dernière info, elle est tombée il y a quelques heures, rejette la nouvelle proposition d'accord de l'Iran. À l'heure qu'il est, je ne suis pas satisfait par ce qu'ils offrent, a commenté le président américain ce vendredi à Washington. Donc ça nous permettra de faire le point sur la situation avec toutes ces infos dans le Huffington Post et un conflit qui s'enlise. Je suis en vacances, donc hier, j'ai regardé un petit peu les chaînes infos, ce que je fais jamais. J'ai regardé France Info notamment, et hier soir, ça, il parlait notamment, c'est des blablas en plateau entre spécialistes de la spécialité là. Et un des spécialistes qui disait, mais est-ce que Trump ne se dit pas finalement qu'il peut mener ce conflit au moins jusqu'à l'été? Tant qu'il n'est pas trop proche des élections de mi-terme. Hein, des élections de mi-mandat. Voilà. Donc on est en début mai. Alors si ce spécialiste a raison, on a encore 3 mois de conflit devant nous. Hein, le fameux conflit qui devait durer 3-4 semaines et qui est rentré dans son troisième mois, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Voilà. Il contourne le Congrès et la règle des 60 jours. Ouais, c'est une énorme surprise, effectivement. Tu as raison. Trump qui se fiche comme de sa première chemise. Du Congrès. Non, évidemment, ce n'est pas une surprise. Il n'en a rien à foutre. Mais ça, c'est pas la première fois. Il m'a fait rire, il m'a fait rire, cette une de Libé m'a fait beaucoup fait rire. On a une grosse page présidentielle ce matin. Ça sent quand même les journaux qui n'avaient pas trop d'actu à se mettre sous la dent en disant, ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On n'a rien, on a trop rien dans l'actu. Et si on se faisait une grosse couche présidentielle? Ah, il y en a. Hein, il y en a. Donc, je vous ai mis trois dossiers. Ah, mais je l'ai pas mis le. Mais il manque un titre. Bah ouais, il manque celui-là. Là, le. Mais il est où mon édito? Bah, attendez, ah, bah, je l'ai passé. Ah, bah oui, je l'ai passé, il est là. Le premier, c'est ça. C'est 2027, risque de dispersion mortifère. C'est une tribune dans Le Monde. De qui? De Michel Noblecourt. Je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà. Michel Noblecourt, qu'est-ce qu'il dit Michel? Noblecourt, c'est son analyse à lui, hein. Il dit il y a tellement de candidatures qui arriveraient conditionnelles à droite et à gauche. Tiens, Commodore, je reviens dans un instant à toi, je vais répondre à ta question. Que cette multiplication des candidatures, elle nous amène à un deuxième tour Mélenchon-RN. On ne sait pas encore si c'est Bardella ou si c'est Marine Le Pen. On saura ça le 7 juillet, après la décision de justice concernant Marine Le Pen sur inéligibilité ou éligibilité. Donc voilà, ce monsieur, il dit, bon, en l'état actuel des choses, avec la multiplication des candidatures, des candidats putatifs potentiels, on va vers un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella. Et lui, ça l'ennuie, ce monsieur, puisqu'il dit mortifère. Après, il y a des gens qui vont s'en féliciter, hein. Les soutiens de Mélenchon vont se féliciter de ce deuxième tour. Les soutiens du RN vont se féliciter de ce deuxième tour. Bon, manifestement, Monsieur Noblecourt, lui, c'est pas sa tasse de thé, et donc il parle d'un risque de dispersion mortifère. Je fais une parenthèse pour répondre à... Ah, je l'ai perdu. Où est-ce que je t'ai? Où est-ce que je t'ai mis? Ah, Commodore. Salut, Sam, tu n'as pas peur de ce qu'on pourrait lire sur toi dans le rapport de la commission sur France TV? Alors, c'est pas une commission sur France TV, c'est une commission sur l'audiovisuel public. Voilà. Et non seulement on n'a pas peur, mais on l'attend avec impatience. Mais vraiment avec impatience. Voilà. Et je ne suis pas sûr que c'est moi qui dois avoir peur dans cette histoire, mais je t'en parlerai en début de semaine. Viens lundi, viens mardi, il y a des choses qui vont t'intéresser. Voilà. Parenthèse refermée. Donc, on a ce risque de dispersion mortifère. On a le Gauche réveille-toi en une de Libé, qui est un journal de gauche qui ne l'a jamais caché, qui dit que la gauche est assoupie, qu'elle est endormie, notamment sur un plan programmatique, sur le plan de l'Union également. Et la gauche et Libération qui donne la parole à plusieurs personnes qui disent mais on va dans le mur, quoi. C'est la gauche. Voilà. Le Gauche réveille-toi fait un petit peu penser au Jeanne d'Arc sauve-moi, personnellement, je sais pas pourquoi. Donc on va voir ça avec Libération. La gauche sommée de s'activer. Voilà. Malgré l'absence d'union, un début d'ébullition d'idées. Bon, c'est bien l'ébullition des idées, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Voilà, gros dossier dans Libé et des militants qui disent aux élus de gauche, on a envie de leur dire, réveillez-vous. Ah, c'est Jeanne au secours, ouais, c'est ça. Jeanne, au secours! Exactement. Et puis, un dernier papier sur la présidentielle, avec un truc qui s'est passé à Mâcon. Marrant, parce que mon grand Malo qui s'intéresse un petit peu à l'actualité, je veux pas trop. À 9 ans, je pense qu'il faut préserver les enfants de toute cette matière très anxiogène, mais manifestement, il entend des discussions d'adultes et il me dit, ah, ils sont trompés sur. Il y avait une chaîne d'info allumée ce matin dans le salon de papy. Et il dit, ah, ils se sont trompés, ils ont écrit Mâcon au lieu de Macron. Je dis, non, non, non. Le Pen et Bardella ne se sont pas réunis chez Macron, non. Non, là, ce serait une autre histoire. Imaginez. Si on apprenait que le président Macron, en sous-main. Non. Donc, c'est à Mâcon. Voilà. Mâcon, c'est où d'ailleurs? C'est en Haute-Saône, par là? Voilà. Et donc, c'est un meeting. Ce pourrait être le dernier meeting. En Saône-et-Loire, en Saône-et-Loire. Merci. Ce pourrait être le dernier meeting du RN avant le 7 juillet, date qui décidera du candidat ou de la candidate du RN à la présidentielle. Si Marine Le Pen est toujours inéligible, ce sera Bardella. Si elle est éligible, ce sera Marine Le Pen. Et c'est pour ça que ce meeting de Mâcon est important, parce que c'est peut-être le dernier meeting avant le 7 juillet. Et après, eh bien, le parti se rangera comme un seul homme, sans doute, derrière Bardella ou Le Pen, hein, les divisions, la multiplication des candidatures qu'on connaît à droite et à gauche, à l'extrême droite, ils ne connaissent pas. C'est l'une de leurs forces. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé à Mâcon? Ben, Le Pen et Bardella ont tenté d'accorder leur violon, parce qu'en matière de programme économique, malgré les dénégations du RN, ben, c'est pas très très clair. On a l'impression de lire deux programmes différents. Hein, il y a beaucoup d'articles sur le sujet en ce moment. As-tu vu l'histoire rigolote, car elle se termine bien, de chevaux sur l'autoroute A84 entre Rennes et Liffré? Alors, je n'ai pas vu l'histoire, mais je connais bien cette autoroute que j'ai beaucoup empruntée. Merci, l'enclencheur. Bravo pour l'école d'ingénieur. Merci, Nat de Laser, pour les bits que je n'avais pas vu. Merci, Flo Bibi. Merci encore. Voilà. Et donc, ils ne sont pas d'accord. En gros, pour résumer, il y a une teinte. Il y a une teinte social dans le programme économique de Marine Le Pen depuis toujours. Et il y a une et chez Bardella, il y a une teinte beaucoup plus pro-entreprise. Alors Marine Le Pen a essayé de dire que à Mâcon, donc que c'est absolument pas incompatible, et qu'on pouvait être à la fois pro entreprise et pro-travailleur. Voilà. Donc on lira ce papier tout à l'heure. Voilà pour mon petit sommaire. C'est beau ou c'est pas beau? Bon, c'est un petit sommaire, hein. Voilà, c'est ça qu'on a ce matin. Et on va développer tout ça dans un instant. Petit mais efficace, exactement. Merci merci Madrake. Madrake, pardon. Merci Madrake pour le soutien, c'est adorable. Merci pour ton message. Sardou a écrit une chanson qui s'appelait Lénine, réveille-toi. Sérieux? Incroyable. C'est un petit sommaire, ouais. C'est un petit sommaire qui nous imposera de couper le stream correctement à la fin, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire, c'est mon petit plaisir. Ah, t'as aimé Sugar? Juste une illusion? Ah ouais. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Ouais, je n'ai pas été inspiré par le dossier du Parisien, je peux vous le montrer vite fait. Hein. Le Parisien a fait une sur ça. Je l'ai lu ce dossier sur les années 80. Le Parisien a rebondi sur. Reviens, petite une. Voilà, viens, petit El Gâteau, fais ton boulot. Le Parisien a fait une. Pas sur le film. Voilà, il y a un film qui s'appelle donc Juste une illusion. Qui est sorti il y a quelques jours déjà, qui marche bien, eu 1 million d'entrées déjà avec Camille Cotin, Louis Garrel et Simon Boublil. Donc le film est plutôt réussi, il semble bien marcher, voilà. Et du coup, le Parisien fait un coup de projecteur sur la nostalgie des années 80, en disant Ah, les années 80, c'était top, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le problème avec la nostalgie, c'est que ça nous fait voir des événements du passé en occultant les aspects moins sympas. Voilà. Bon, qu'il y avait des trucs cool dans les années 80 et des trucs moins cool, bon, ben, moi qui les ai bien connus, pour moi, ça m'a semblé une évidence. En faire un. Voilà. J'aurais pu vous en faire un sujet, je ne vous l'ai pas fait. Je trouvais que c'était un sujet très magazine. Bon, j'ai pas été totalement séduit. Mais ça existe, ça existe. Non, il y a un film qui est incroyable, c'est le film sur la natalité, là, sur la, pardon, sur la grossesse et la maternité d'une jeune femme sourde, là. Sorda, je crois. Sorda. Ça, on s'est penché sur ça il y a quelques jours, là. Ça, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir, qui a l'air incroyable. Sorda. Sur la question de la maternité d'une femme sourde. Ça a l'air magnifique. Merci, Julien. 69. Ah oui, ça a l'air incroyable. Sorda, exactement. Sorda qui veut dire sourde, je crois, en espagnol. Les 1880, les années 1880, quelles belles années, Sam, je t'emmerde, 775. Voilà ce que je te dis, moi. Tu sais ce qu'elles te disent, les années 1880. Elles t'emmerdent, en fait, hein. Je profite que Malo est pas dans la chambre. Je suis t'en donné, moi, des années 1880, moi. Petit con, va. Excusez-moi. Non, mais sérieux. Wesh, les gros mots. Ouais, mais c'est un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. Hein. On peut se laisser faire. Hein. Tu crois quoi, toi? Tu crois qu'on va se laisser faire ici? Tu crois qu'on tend la joue gauche ici? Non, pas trop, non. Pas trop, non. On est gentil, hein. Mais on tend pas tellement l'autre joue ici. Il y en a qui vont le comprendre en début de semaine, d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est tout. Non, mais sérieux. Ok, on va bosser un peu? Est-ce que j'ai votre go pour la revue de presse? L'enclencheur rigole, mais je vais en enclencher moi lundi mardi. Ça va enclencher lundi mardi, vous allez voir. On comprend aux quatre coins de Paris façon puzzle, on va le retrouver. Je disperse, je ventile moi. C'est tout. Non mais. Allez go. Merci l'enclencheur. Premier sujet. Premier sujet, bim, l'Ukraine continue de résister. Combien de temps que la guerre a... Ça fait, on est, ça fait 4 ans déjà, non? On est, le chat, il sait tout. Vous êtes une communauté de goats. Février 2022. Donc 23, 24, 5, 4 ans et 2 mois. Vous avez raison. 4 ans, plus de 4 ans. Hein, la fameuse, comment il disait Poutine à l'époque? La libération de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine qui devait durer quoi, 24 heures, 48 heures? L'opération spéciale, ouais, 4 ans et 2 mois. Bien joué, Vladimir. Et l'Ukraine qui continue de résister, c'est. Tiens, qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube ce matin? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on. Oh! Attends, je fais une pause. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube ce matin? Parce qu'on met toujours une actu sur YouTube, laquelle? Est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on met l'Iran ou est-ce qu'on met la grosse page politique? Peut-être ça, hein? La gauche? Ah, tu mettrais la gauche, toi? La gauche, réveille-toi. Ou le RN? Ou le RN? On peut mettre le RN. Allez, on mettra le RN. Allez, plouf, plouf. Plouf, plouf, ce sera toi qui iras sur YouTube. Et ce n'est pas toi, mais en fait, comme tu. Hop, c'est le RN, c'est bon. Ok. Donc, la guerre en Ukraine. C'est parti. Vous êtes toujours là parce que mon ordinateur s'est éteint. Bon, bah, je relance, je relance, je relance. Vous me dites quand c'est de retour. Normalement, c'est reparti. F5, on est de retour. Vous êtes là? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous êtes là? Ouais. Ouais, je pense que c'est de ma faute. Je pense qu'il y a des moments où j'ai appuyé sur des trucs. Je suis même pas sûr que ce soit la connexion au Maroc. Voilà. Voilà. Ah, vous m'avez pas perdu? Ouais, c'est ça, mais je pense que j'ai appuyé sur un truc. Ah oui, c'est-à-dire quand je dis. Ah, quand j'ai dit connexion de merde, vous l'avez entendu? Merde. Ah, quand j'ai dit connexion de merde, vous m'avez entendu? Ah merde. Ah ouais. Bon, bah j'ai bien fait de tenir ma langue alors. Ok. Ah ok. Ok. Bon, ça tombe bien, cette coupure elle est parfaite. Elle est pile poil sur le premier sujet, donc on y va. Alors, comment je fais moi pour. Je suis pas pratique à lire là. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Je pense que quand je touche ma tablette, ça touche mon pad de PC portable. Et c'est ça qui a dû me faire penser qu'on avait perdu la coupe. Ok. Merci Château Lardon. Premier sujet. Donc on se le disait, ce conflit dure depuis 4 ans et 2 semaines. Hein, il devait durer 2 semaines. Il a duré 4 ans et 2 semaines. Merci Tite Fleur, merci Alunera. Où on en est? Ben, on en est qu'on a une armée ukrainienne qui est de mieux en mieux organisée, alors que certains pensaient que, eh bien, ce début d'année 2026 allait pouvoir être fatal pour l'armée ukrainienne. Ça n'est pas le cas. Dernières infos dans le Parisien. En Ukraine, les secrets d'une prouesse militaire. Annoncée comme un tournant, l'offensive russe de ce début d'année patine sur le front. Kiev, toujours plus ingénieux et autonome, regagne même du terrain par endroits. Le printemps leur promettait l'enfer. On avait des analyses il y a quelques semaines qui disaient ça, hein, qui disaient que le début de l'année 2026 allait peut-être être un tournant de la guerre, mais au profit de la Russie. Eh bien, c'est pas le cas. Le printemps leur promettait l'enfer. Les soldats ukrainiens, épuisés par un hiver glacé, devaient subir une grande offensive. Une fois le brouillard levé, les drones russes allaient pouvoir pilonner leur position. Hein. Des villes clés du Donbass subissent le siège ennemi depuis des mois déjà. Voilà ce qui était annoncé par certains. En Ukraine, vous êtes bien avec moi, hein, parce que je vois des gens qui semblent dire que je suis pas en live. Attendez, attendez. Oui. Il y a encore il y a des gens qui écrivent des messages sur le... Ah oui, il faut faire un F5. Il y a des gens qui sont sur la coupure de. Ok. Il y a des gens qui sont en train de dire, ah, mais il est parti faire caca sans doute. Ah oui, il faut actualiser les gars. Merci beaucoup. En Ukraine, la guerre refuse de céder devant les plans de Moscou. Après une périlleuse année 2025, des bonnes nouvelles parviennent enfin jusqu'aux quartiers généraux de Kiev. Les opérations ont permis de grignoter 480 km² depuis janvier. Le pays n'avait pas reconquis autant de terrain depuis près de 3 ans. L'Ukraine n'avait pas reconquéri autant de terrain depuis près de 3 ans. Mardi, des drones ukrainiens ont de nouveau touché la raffinerie de Tuapse. C'est en Russie, infrastructure énergétique proche de Sotchi en mer Noire qui avait déjà été frappée 4 jours plus tôt. Le pétrole qui est une des clés du conflit, puisque l'effort de guerre russe, il est notamment financé par l'argent du pétrole russe. D'ailleurs, la hausse des cours du pétrole arrange bien les affaires de Poutine. En frappant les infrastructures pétrolières russes, l'Ukraine fait très mal à cet effort de guerre russe. L'avantage technologique ces jours-ci semble pencher du côté de Kiev, c'est quand même intéressant. Lundi 20 avril, Zelensky a décoré des ouvriers de l'industrie de défense lors d'une cérémonie. L'Ukraine a su résister dans une guerre à grande échelle et se défend avec dignité de manière moderne, a déclaré le président. Sur le front, les drones kamikazes de Kiev, de plus en plus autonomes, punissent tout mouvement au sol. Les unités de Moscou ne peuvent risquer un pas sans s'exposer. C'est la guerre des drones, hein, cette guerre actuellement. La ligne de contact s'est transformée en vaste zone de mort de 20 km de part et d'autre du tracé initial. Une zone donc dans laquelle il est quasiment impossible d'envoyer désormais un soldat. Sur la scène, le 20 avril, Zelensky avait fait une annonce encore plus spectaculaire. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans l'actualité. Pour la première fois dans l'histoire, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote, systèmes terrestres et drones, vante le chef de l'État. Donc on a assez peu d'infos là-dessus. Hein, aucun détail de la mission ne fuite ni par l'état-major ni dans la presse. Donc du côté ukrainien, on a affirmé qu'il y a une position russe qui a été prise uniquement par des drones et des robots ukrainiens. Voilà. On n'a pas beaucoup de détails sur cette information, mais en tout cas, c'est ce qu'affirme l'Ukraine. De manière générale, les gains revendiqués se concentrent souvent sur des zones grises, disputées, presque élastiques. Tout est bon pour nourrir le récit d'une nation qui résiste à l'envahisseur. Je vous lis. MMG dit dans le chat, les forces ukrainiennes manquent d'effectifs malgré tout, ça c'est vrai. Mais ils ont su développer des drones efficaces pour neutraliser notamment les Shahed de conception iranienne, hein, rappelons-le, et même attaquer des lieux stratégiques en Russie, exactement. Derrière le coup de communication, l'Ukraine, c'est un fait, se défend maintenant avec ses propres armes. En 2022, au début du conflit, ça c'est très important, en 2022, l'Ukraine ne produisait que 10% de l'armement consommé sur le front. Hein. Donc ça veut dire que son armement, l'Ukraine l'achetait à l'étranger. Ce chiffre atteint désormais 60%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, non seulement c'est un pays qui mène la guerre, mais c'est un pays qui a réorganisé son économie pour produire les armes dont elle a besoin. Donc 60% de l'armement ukrainien aujourd'hui est produit en interne. Nul besoin désormais de solliciter l'aval de Washington pour cibler la Russie en profondeur. Et qui innove? Oui, Rex, tu as raison. Et qui innove? Les Ukrainiens manquent d'effectifs, mais les Russes ont l'air aussi de manquer d'hommes. Tout à fait. Alors après, il y a un problème de différence de population. Le russe qui est beaucoup plus importante. Mais manifestement, côté russe, il y a un problème de motivation aussi. Donc ils en sont à promettre des primes énormes aux gens qui s'engagent, à aussi engager, vous savez, des soldats dans des pays étrangers. On en a déjà parlé. Souvent en mentant sur ce qui attend ces étrangers africains, par exemple, arrivés sur le sol russe. Parfois, on leur promet un emploi qui n'a rien à voir avec cette guerre et ils se retrouvent en première ligne. Parfois, ils comprennent qu'ils vont participer au conflit, mais on leur dit qu'ils seront à l'arrière et ils se retrouvent en première ligne, en chair à canon. Hein. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire, mais se laissent tenter par les primes d'engagement et la solde très importante. Voilà. Bon, évidemment, quand on meurt au bout de 15 jours, c'est moins intéressant. Voilà, Kiné me rappelle la différence de population. 143 millions d'habitants en Russie, 39 millions en Ukraine. Alors, cette utilisation de combattants étrangers, je n'en parle pas ce matin, puisqu'on l'a déjà beaucoup documenté ici. D'autres casse-têtes prennent fin. Dans cette incessante course à l'innovation, les hommes de Vladimir Poutine ont jusqu'à peu bénéficié de l'ascendant. Hein, le côté tech, on en parlait à un moment beaucoup du côté russe. Le Kremlin profite notamment des trouvailles de son Rubicon Center. Cette unité spécialiste installée dans l'ouest de la capitale russe a contribué à développer la version russe des drones Shahed de conception iranienne. Donc les Shahed, ce sont des drones iraniens, hein, qui ont été notamment beaucoup utilisés dans la guerre au Moyen-Orient, dont qu'on suit depuis plusieurs semaines ici, mais les Shahed iraniens, déjà redoutables pour ce type de drones, ont été améliorés par la Russie. Ces engins bon marché ont longtemps obligé Kiev à dilapider des fortunes en missiles, parce que pour abattre ces drones Shahed peu coûteux à construire, même améliorés, il fallait lancer des missiles extrêmement coûteux. Kiev s'est adapté. Les ingénieurs de l'Ukraine ont mis au point des drones intercepteurs toujours plus sophistiqués. Voilà, fabriqué par imprimante 3D, il coûte à peine 2000 euros, 15 fois moins que les appareils qu'il torpille en plein vol. L'Ukraine revendique avoir abattu plus de 33 000 drones en mars, un record depuis le début de l'invasion. Au début, c'était l'Ukraine qui dépensait des fortunes pour abattre avec des missiles les drones russes, et maintenant c'est l'inverse. Les drones d'interception ukrainiens coûtent moins cher que les drones d'attaque envoyés par la Russie. Quels sont les pays africains qui envoient des soldats en Russie? SVP me demande de Matmaker. Attention, ce ne sont pas les pays africains qui envoient des soldats. C'est la Russie qui arrive à convaincre des ressortissants africains via des campagnes de recrutement promettant monts et merveilles, notamment de l'argent, enfin promettant de l'argent. Mais ce ne sont pas des décisions d'État et de pays africains. Ah, Jackie. Attends. Alors, Jackie nous dit, et Jackie qui semble être le Jackie à l'origine de la pétition pour l'exclamation pétition dans le chat, sur les féminicides que nous mettons en avant depuis plusieurs jours. Bonjour Samuel, je tiens à te remercier d'avoir relayé la pétition que j'ai proposée à propos des féminicides. Celle-ci me tient particulièrement à cœur. Bon, sache qu'on est qu'au tout début du soutien de cette pétition, Jackie, parce qu'on la trouve essentielle et on la trouve juste. Et on la trouve aussi très bien écrite, parce que je trouve qu'elle présente très très bien le problème. Voilà. Donc ce n'est que le début, on va essayer de la faire monter le plus possible. Point d'exclamation pétition dans le chat pour avoir le texte de cette pétition. Lisez-la, parlez-en autour de vous si vous la trouvez juste. Voilà. N'hésitez pas à la mettre en avant auprès de vos proches. On va la faire monter cette pétition, hein, qui demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Voilà. N'hésitez pas à en parler à vos streamers et à vos streameuses préférées également. On en reparlera à la fin de ce live. Merci Rex. Merci beaucoup Rex. N'hésite pas à revenir Jackie de temps en temps. Mais on va cette pétition, on va pas en parler qu'une fois ou deux. Je vais la suivre sur le long terme. On va essayer de la faire monter. Rappelons qu'elle était il y a quelques jours quand on l'a découverte à 112 signatures et Kinem22 me dit qu'on est en train de se rapprocher des 6000 signatures. J'y crois. Je crois qu'on peut faire quelque chose sur ce sujet. Je continue sur l'Ukraine. L'ingéniosité depuis que Moscou a lancé ses chars sur Kiev assure la survie de l'Ukraine. Des filets anti-drones protègent les villes les plus exposées aux drones ennemis, certains de ces filets équipés il y a peu encore des bateaux de pêche. En Bretagne, au sol, des robots terrestres permettent de transporter des stocks de munitions jusqu'au front, puis de ramener des blessés sur le chemin du retour. Alors, ces dernières heures, j'ai vu l'histoire d'une grand-mère ukrainienne qui aurait été ramenée depuis une position assise sur un robot terrestre comme ça. Voilà, je vous ai pas mis cette info en avant, mais voilà, un drone qui aurait été envoyé, un drone terrestre, un robot terrestre, envoyé avec un message à destination de la grand-mère, qui l'invitait à s'asseoir. Voilà, il y a effectivement une vidéo et ce qui aurait ramené cette grand-mère ukrainienne à l'abri. La semaine dernière, le ministre de la Défense ukrainien a déclaré vouloir doubler ses acquisitions cette année. On parle de robots terrestres. En marche, les objectifs de Vladimir Poutine consistaient à pilonner 13 axes d'attaque simultanément sur le front pour submerger les défenses ukrainiennes. Donc c'est là où on a eu des analyses en début d'année qui disaient attention, on est peut-être sur un tournant de la guerre. Poutine a décidé de mettre le paquet pour affaiblir violemment, brutalement les défenses ukrainiennes. Donc une stratégie qui consistait à pilonner 13 axes d'attaque simultanément sur le front pour submerger les défenses ukrainiennes. La tactique s'est pour le moment retournée contre Moscou. Kiev contre-attaquant de manière ciblée, appuyée par des drones. Avec des unités russes qui doivent choisir entre se défendre et allouer des effectifs et du matériel à des opérations offensives ailleurs. D'après l'Institute the Study of War, qui est un think tank américain, l'avancée russe a considérablement ralenti. Les forces russes subissent des pertes humaines et s'appuient de plus en plus sur une infanterie mal entraînée et sous-équipée pour progresser. Nix nous dit la coupure de Starlink a aidé à mettre un coup d'arrêt aux Russes en 2026. Tu as raison. Tu as raison et je crois que l'article en parle. Vue du ciel, le front long de plus d'un millier de kilomètres. Vous avez la carte là. Là, vous avez l'Ukraine, la Russie. Et vous avez en rose, là, en saumon, le territoire occupé à ce jour par la Russie. Vous avez en jaune le territoire sous influence russe ou annexé avant 2022, donc Donetsk et la Crimée. Vous avez en rose les prises territoriales de la Russie depuis 4 ans. Depuis 4 ans et 2 mois. Mais la Russie n'avance plus. Les Ukrainiens poussent dans les régions de Zaporizhia ou de Dnipropetrovsk. Les Russes avancent plutôt dans l'oblast de Donetsk. Leur priorité absolue, donc ici là. Il serait précipité toutefois de parler d'un grand renversement des dynamiques en faveur de l'Ukraine, avertit un analyste. Mais les Ukrainiens résistent parfaitement et c'est une prouesse en soi, au vu de la taille du pays, de ses capacités de recrutement au niveau militaire, de son budget, etc. Évidemment, parmi les raisons, il y a le soutien étranger et notamment occidental, hein, évidemment. Pour Kiev, les planètes s'alignent aussi à l'étranger. Début février, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, désactive d'un coup. Vous en parliez dans le chat, ces terminaux Starlink utilisés sur le front, alors que les Russes utilisaient justement ces appareils Starlink pour communiquer sur le champ de bataille. En plus, je crois que Poutine a suspendu il y a quelques jours l'utilisation de WhatsApp en Russie, alors que justement les unités, certaines unités russes, certains soldats russes utilisaient WhatsApp pour communiquer entre eux, notamment pour coordonner leurs attaques. Donc les troupes russes auraient de plus en plus de mal à communiquer entre elles. Quelques semaines plus tard, les États-Unis et Israël déclenchent leur première frappe sur l'Iran. Téhéran riposte en lançant ses drones Shahed dans les pays du Golfe, tout ça vous le savez. Du coup, le savoir-faire accumulé par l'Ukraine dans la défense aérienne, dans la lutte contre les drones Shahed, vaut désormais quelque chose et des contrats de coopération militaire se sont enchaînés dans ces pays naturellement plus inclinés vers Moscou. On parle des pays du Golfe. En début avril, l'Ukraine se débarrasse d'un de ses principaux problèmes en Europe. Donc c'est toute une série de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Avec la chute de Viktor Orban en Hongrie, hein, qui était un dirigeant pro-russe. Ce dirigeant pro-russe empêchait depuis des semaines un prêt européen de 90 milliards d'euros à destination de Kiev. Son successeur, pardon, Peter Maguire, lui a donné son feu vert à cette aide européenne. Tortuachier me demande, et pour le prêt de 90 milliards, c'en est où? Eh bien, c'est débloqué. Encore une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Alors, il faut raison garder, hein. Tout n'est évidemment pas réglé, le conflit n'est pas terminé. À Moscou, Vladimir Poutine tente toujours d'arracher des régions entières via la signature d'un traité de paix. Donald Trump, qui a souvent semblé vouloir faire plier Kiev devant les conditions russes, est focalisé sur le Moyen-Orient ces jours-ci. En attendant, l'Ukraine continue de bénéficier du renseignement militaire américain. Gagner du temps dans ce conflit représente déjà une victoire. Saval, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, Saval. Je suis toujours content d'avoir des nouvelles de l'Ukraine, mais toujours un peu fatigué d'entendre que la Russie est au bord de la défaite, alors qu'elle maintient la majorité des positions. Alors personne dans cet article n'a dit que la Russie était au bord de la défaite. Alors je ne sais pas qui tu as écouté ce matin, mais ça n'était pas moi. Personne dans cet article ne dit que la Russie est au bord de la défaite. La Russie, elle perd depuis 4 ans déjà. L'objectif de Poutine, c'était d'envahir l'Ukraine en quelques jours. Donc la défaite, elle est russe depuis 4 ans. Le simple fait que l'Ukraine résiste est une défaite pour la Russie. Donc ça, si c'est de ça dont tu parles quand tu parles de défaite de la Russie, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 4 ans que ça dure. J'ai l'impression qu'on me vend une propagande sous couvert de journalisme, idem concernant l'Iran. Alors, ça, tout dépend quelle histoire tu veux accepter. Si tu veux accepter l'histoire de la libération de l'Ukraine par la Russie, je peux comprendre. Mais en revanche, là, dans cet article, il n'y a rien qui te dit que l'Ukraine est en train de bouter les forces russes hors de son territoire. À aucun moment. À aucun moment. Ah, on a nos amis pro-russes qui débarquent dans le chat, ça faisait longtemps. Non, l'objectif était de capturer certaines régions, pas d'envahir toute l'Ukraine. C'est faux. Ouais, c'est une énorme fake news que tu viens d'écrire dans le chat. Il suffit de retrouver les déclarations de Poutine au début du conflit. Voilà, je ne sais pas sur quel site tu t'informes, mais manifestement, ceux-ci ne sont pas des sites d'information, mais des informations. Autre question? Merci Diesel. Merci Camille. Merci Alunera. Merci Titefleur. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des bons gros pro-russes pro-Poutine. Ah, parce que ils avaient un peu disparu. Que les pro-Trump, mais il en reste quelques, il reste, c'est comme le petit village gaulois dans Astérix, il y a encore des petites poches. Ça fait plaisir. Ah, ok. Ça va, alors, Youngo Unaim, notre ami qui nous explique que jamais Poutine n'a voulu envahir la totalité de l'Ukraine, mais seulement libérer des régions. Donc c'était ce que nous disait notre ami. Il nous a aussi expliqué en août 2023 qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique dû à l'activité humaine, mais que c'était des cycles chauds et froids. Ah, c'est pour ça qu'on a eu des ères glaciaires. D'accord? Ok. Donc tu mènes plusieurs combats, hein? Tu mènes plusieurs combats, hein? 11. Ah, je suis tombé sur un historique intéressant. 11, je lis pas tout, hein, parce on va perdre du temps. 11-11-2024. Alors, ça arrive à dormir depuis que Trump est élu? Voilà. Alors, c'est vrai que les pro-Trump en France ont quasiment disparu. Enfin, en tout cas, ils sont beaucoup moins bruyants, vu les dingueries de ces derniers mois. Entre la lutte anti-immigration via l'ICE, le Venezuela, le Groenland, l'Iran, etc. Voilà, mais en 11-11-2024, ça pouvait encore s'écrire. Oui, le message n'a pas très bien vieilli. Alors ça arrive à dormir depuis que Trump est élu MDR. Ça arrive à bien dormir, ouais, ça arrive à bien dormir, ouais, ça va, tout va bien. C'est comme un catalogue en fait, ton historique. Je m'attends à trouver d'autres trucs intéressants. Donc, à part la négation de l'activité humaine dans le réchauffement, le soutien à Trump et à Poutine, y a d'autres choses ou comment ça se passe? Bukele le GOAT. Bukele, c'est le président de quel pays déjà? C'est pas lui qui a mis en place une politique radicale de lutte contre le trafic de drogue, y compris en mettant une partie de sa population innocente en prison. C'est ça, hein, c'est lui, hein, c'est le président de Salvador. Moi, ouais, c'est ça. Bukele le GOAT, ok? Ok. C'est comme un. Ok. T'as un historique un peu en forme de best-of. Je n'avais pas trop d'actu ce matin, ça m'intéresse. Ok. Ça coche pas toutes les cases, hein, il manque des trucs quand même. Il manque des trucs. Bon, reste avec nous, hein, c'est toujours sympa de. Toujours. Vu le côté anxiogène de l'actu, un peu de divertissement, ça fait plaisir. On continue? Après l'Ukraine, on enchaîne? Go! Sujet suivant, l'Iran justement. Alors l'Iran, que se passe-t-il? Bah ça s'enlise aussi. L'Iran, conflit qui devait durer, alors au début on savait pas trop, c'était pas très très clair, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Quelques semaines, 3, 4 semaines, on en est à un peu plus de 2 mois, si j'ai pas de bêtises, vous allez me corriger si je fais une erreur. Un conflit qui continue de s'enliser. Donald Trump, donc ça c'est un article dans le Huffington Post, qui vient de rejeter, c'est un truc qui est tombé il y a quelques heures, la nouvelle proposition d'accord de l'Iran. Voilà. À l'heure qu'il est, je ne suis pas satisfait par ce qu'ils offrent, eux c'est les Iraniens, a commenté le président américain vendredi à Washington. Le conflit au Moyen-Orient s'enlise de plus en plus, dit le HuffPost. Donald Trump s'est ainsi dit ce vendredi 1er mai, pas satisfait d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis, renouvelant sa menace de pulvériser la République islamique en cas d'échec de la diplomatie. Mon aîné hier, 9 ans, Malo, nous on met jamais la télé à la maison, mais chez papy, il y avait une chaîne info en fond hier, et il a vu ces mots pulvériser dans le bandeau que Trump voulait menacer de pulvériser la République islamique en cas d'échec de la diplomatie. Et Malo s'est dit, mais papa, ça veut dire quoi pulvériser un pays? Et il était un peu intrigué par cette déclaration. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Trump va lancer la bombe atomique contre l'Iran? Waouh! Là, j'avoue que j'étais un peu embêté pour répondre à cette question. Pulvériser la République islamique. Tu dis pulvériser, c'est des mots de cours d'école normalement. C'est pour ça que je pense qu'il touche les enfants. Mais bon, le problème, c'est que le mot est utilisé par le président des États-Unis. Du coup, tu l'as rassuré? Ouais, comment t'as répondu? Je dis, voilà, oui, comme je pouvais. Je lui ai dit qu'à ce jour, le président américain n'avait pas évoqué d'utiliser la bombe atomique. Voilà. Et que peut-être Il allait utiliser des moyens conventionnels, avec des bombes classiques. Voilà, c'est affreux d'avoir cette discussion avec un enfant de 9 ans. C'est pour ça que moi, à la maison, la télé n'est pas allumée et qu'il n'y a pas les chaînes d'infos en fond. C'est pour éviter que les enfants soient confrontés à ça. Mais bon, du coup, la question était posée, j'ai essayé de répondre comme je pouvais. Donc ça, c'est pour la déclaration de Trump. Plus tôt, l'agence officielle iranienne IRNA avait annoncé que la République islamique avait transmis jeudi soir le texte de sa dernière proposition au Pakistan, Pakistan pays médiateur dans ce conflit, sans plus de détails. Réponse de Trump, à l'heure qu'il est, je ne suis pas satisfait pour ce qu'ils offrent, tout en répétant qu'à son sens, les dirigeants iraniens étaient désunis entre eux et incapables de s'entendre sur une stratégie de sortie du conflit. Trump, qui avait déjà menacé d'anéantir la civilisation iranienne, vous vous rappelez de ses propos, qui sont des propos, comment certains les ont qualifiés à l'époque? Quand il a promis d'anéantir la civilisation, ce sont des propos. Rappelez-moi quel mot a été utilisé à l'époque. Génocidaire. Oui. Oui, quand tu menaces d'anéantir une civilisation, voilà, certains se sont dit, mais ça, les amis, c'est des propos génocidaires. Mais ça, c'était il y a quelques temps. Tout en répétant qu'à son sens, les dirigeants iraniens étaient désunis, ça je l'ai lu. Donc Trump, qui avait déjà menacé d'anéantir la civilisation iranienne, a assuré qu'il préférait ne pas avoir à pulvériser, on n'est pas très loin finalement, hein. Pulvériser une fois pour toutes l'Iran, mais qu'une reprise de la guerre restait une option. Selon une source bien informée, citée par le site américain Axios, la Maison-Blanche a exigé que l'Iran s'engage à ne pas transférer son uranium enrichi en dehors de ses sites bombardés, ni à relancer ses activités nucléaires pendant les pourparlers. La question du nucléaire iranien, du programme militaire nucléaire iranien, toujours au cœur de ce conflit. Un cessez-le-feu, rappelle le HuffPost, est en vigueur depuis le 8 avril. Donc 8 avril, donc ça fait bientôt un mois. Après quasiment 40 jours de frappe israélo-américaine sur l'Iran et la représailles de Téhéran dans la région, notamment sur les pays du Golfe, le conflit a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ses répercussions continuent de secouer l'économie mondiale. Après la trêve, une première session de pourparlers direct à Islamabad le 11 avril s'était révélée infructueuse. Ça avait duré 24 heures et jusqu'ici sans lendemain. Le conflit perdure sous d'autres formes, puisqu'officiellement on est dans un cessez-le-feu, hein. Washington impose un blocus au port iranien en représailles au verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz. Téhéran a décidé un blocage du détroit d'Ormuz. Les Américains ont dit, eh ben moi aussi, enfin les Américains, Trump, par lequel transitait auparavant un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde. Le prix de l'essence qui augmente à la pompe chez nous, vous savez, c'est directement lié à ce conflit. Le gouvernement américain a annoncé ce vendredi, donc hier, de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens et prévenu que ceux qui acquittaient un péage aux autorités de Téhéran, donc pour les Trois d'Ormuz, pour passer le détroit, s'exposeraient à des pénalités américaines en retour. You shall not pass, quoi. En gros. Le président américain a théoriquement jusqu'à ce vendredi, donc c'était hier, pour demander l'autorisation du Congrès pour poursuivre la guerre, puisqu'on est au-delà de 60 jours, hein, c'est ça. Mais son gouvernement a laissé entendre qu'il ignorerait cette obligation, l'opposition démocrate se retrouvant impuissante à la faire respecter. Bon, après, le peu de cas que le président fait du Congrès, ça n'est pas très nouveau comme info. Mais disons, c'est une confirmation. Le porte-avions, l'USS Gerald Ford, pardon, le plus grand porte-avions du monde, a quitté le Moyen-Orient. Mais 20 bâtiments de la marine américaine, dont deux autres porte-avions, restent déployés dans la région. Face aux menaces de Washington, Téhéran reste inflexible. La République islamique ne s'est jamais dérobée aux négociations, mais nous n'accepterons certainement pas ce qu'on nous impose, a lancé hier le chef du pouvoir judiciaire iranien. À l'unisson d'autres dirigeants iraniens, il a rajouté que les États-Unis n'avaient rien obtenu de la guerre. Pour résumer, en quelques mots, un peu café du commerce, là où on en est de ce conflit, Trump aujourd'hui semble parier sur un épuisement de l'Iran, épuisement militaire, épuisement économique, épuisement politique avec une population de plus en plus remontée contre le pouvoir, en pensant que, en faisant le pari que l'Iran craquera avant que la pression intra-américaine sur Trump ne devienne très forte. Pression qui viendra des citoyens opposés à cette guerre, des consommateurs américains qui voient le prix de leur plein d'essence augmenter, et pression des élections de mi-mandat à l'automne prochain, alors je ne sais plus si c'est octobre ou novembre prochain, où Trump prend le risque de perdre la majorité au Congrès, à la Chambre des représentants, voire au Sénat. Trump fait le pari aujourd'hui que l'Iran craquera avant lui. L'Iran fait le pari inverse, en estimant que le coût économique du conflit pour les États-Unis et pour le reste du monde va faire plier Trump avant l'été, grosso modo. De Paris. On va voir qui gagnera ce pari. Et pendant ce temps, il y a des gens qui meurent. Il y a King Mahari qui dit il n'écoutera pas le Congrès même s'il perd la majorité. Je crois que tu as raison. Qui peut te donner tort? Sachant que chaque jour, cela coûte plusieurs milliards, je crois. Oui, en plus, il y a le coût de ce conflit pour l'économie américaine. Oui, tu as raison. Le coût militaire et les conséquences sur l'économie américaine. Double coût. Galé 59, je viens de voir ton message sans problème, hein. Il n'y a aucun souci, bien sûr, pour le petit dédicace. Je vous lis. Le Congrès n'a aucun contre-pouvoir aux États-Unis. Si, normalement, si. Ben, si, 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 parce qu'il peut. Le Congrès peut quand même bloquer toute décision politique du président, quoi. Après, mais le problème, c'est qu'il ne respecte aucune règle. Normalement, sur toutes ces décisions diplomatiques et notamment militaires, Trump devrait consulter le Congrès, à minima. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Après, un Congrès qui serait totalement opposé à Trump, après les élections de mi-mandat, pourrait s'opposer à toute initiative législative venant de la Maison-Blanche. Rex me dit Trump a l'équivalent de nos ordonnances. Oui, il est certain que le pouvoir exécutif américain doit malgré tout avoir une manière de faire passer des réformes. Il y a aussi la procédure d'impeachment, mais je n'y ai jamais vraiment cru, quoi. Il faudrait vraiment qu'on aille très 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 loin. Pourquoi personne ne manifeste en masse aux États-Unis? Il y a des manifestations de masse aux États-Unis. Je vous en ai déjà parlé. Il y a des manifestations qui rassemblent énormément de personnes aux États-Unis contre la politique de Trump. Alors, qui pourraient être plus importantes, mais elles le sont déjà. Je vous lis. Salut Sam, c'était quoi la raison des États-Unis de mener ces attaques à la base? On ne sait pas. Ça dépend de quel jour ça dépend quel jour tu décides d'écouter Trump. Au tout début, il évoque la libération du peuple iranien, puis il l'évoque plus. Il évoque le nucléaire iranien, tout en ayant dit quelques semaines, quelques mois plus tôt que après il y a quelques mois, il y avait déjà eu des frappes israélo-américaines contre les installations nucléaires iraniennes, et il avait déclaré à l'époque que le programme nucléaire iranien était foutu. Voilà, donc il y a ça. Il y a la volonté de faire chuter le régime. Il l'évoque au début, mais il n'en parle plus. Écoute, ça dépend quand tu l'écoutes. Ça dépend quand tu l'écoutes. C'est assez difficile à lire. Certains disent pour faire diversion par rapport à d'autres sujets, comme l'affaire Epstein par exemple. C'est comment au Venezuela depuis? La vice-présidente vénézuélienne qui est devenue la présidente vénézuélienne pour remplacer Maduro. Il semblerait qu'elle soit plus américano-compatible, hein, et qu'elle aurait donné des gages à Washington. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai vu que hier la liaison aérienne entre le Venezuela et les États-Unis, qui était suspendue depuis plusieurs années, a repris. Hein. Donc serait aujourd'hui au pouvoir au Venezuela un pouvoir plus compatible avec les intérêts américains. Voilà où on en est. D'où la reprise notamment des relations aériennes pour développer le business entre les deux pays. Quelqu'un me dit, que devient Maduro? Bah, Maduro est toujours en prison aux États-Unis, puis on attend son procès. Américano-compatible, drôle de façon de dire qu'elle flippe de se faire enlever par Washington comme son prédécesseur. Ouais, on peut pas, tu peux le dire comme ça, c'est pas faux. Bien sûr. Merci cousin chômeur, beau pseudo, merci pour le soutien. Merci à toi. Oui, c'est ça, le nom des manifestations contre Trump aux États-Unis, c'est les manifestations No Kings. Merci à la personne qui me donne le. Je ne me rappelais plus du terme exact. Mr. Wilt nous dit, et je crois que tu as raison. Si Trump n'écoute plus le Congrès, on entre officiellement dans quelque chose d'autre, mais ce serait la fin de fait de la démocratie américaine. À ce compte-là, ça devient open bar. Il n'y a juste plus d'État américain, c'est juste le régime de Trump, en fait. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Alors, avec quelques bémols, par exemple, il y a une grosse partie des décisions de Trump de ces derniers mois qui ont été annulées par la Cour suprême, enfin, par la justice américaine au sens large. Hein, il y a beaucoup des mesures de Trump qui ont été cassées par des tribunaux locaux. Et même la Cour suprême s'y est mise, hein, puisque rappelez-vous que la Cour suprême a cassé quand même, a cassé en deux la guerre commerciale lancée par Trump, en déclarant ces mesures de hausse des taxes contre les exportations de la plupart des pays du monde illégales, justement parce qu'il n'avait pas consulté le Congrès. Donc à ce jour, cette guerre commerciale décidée par Trump, elle est cassée par la Cour suprême. Donc il y a encore des contre-pouvoirs. Oui, d'ailleurs, tu as raison, MG, Trump a annoncé hier. A décidé une nouvelle hausse des taxes sur l'automobile européenne. J'ai vu ça, ouais. En gros, ben, il dit la Cour suprême, je fais quand même, quoi. Je vous lis. Merci, Momo Sazor. Merci pour le soutien. Tinkou nous rappelle que d'ailleurs le gouvernement américain va devoir rembourser plus de 100 milliards aux entreprises. Bien sûr, les consommateurs qui se sont fait avoir ne pourront rien récupérer, ça n'est pas faux. Parce que ces taxes supplémentaires payées par les entreprises américaines pour importer des produits, frappées par des taxes, une augmentation de taxes par Trump, aujourd'hui, ces entreprises américaines, fort de la décision de la Cour suprême, se retournent actuellement contre Washington et demandent le remboursement de ces taxes. C'est en cours. Et c'est des sommes monstrueuses. Alors, Mr. Wilt, en mode pessimiste, écrit: On se dirige vitesse grand V vers le moment où l'argument de Trump face au Congrès américain sera: J'ai une armée, pas vous. Bon, ça, il y a eu des scénarios de films là-dessus, mais j'espère qu'on n'arrivera pas là. On aura l'occasion d'en reparler. Après, c'est l'histoire, hein, qui jugera tout ça. Hein. Par exemple, une des questions que vous me posez ici, je n'ai pas la réponse, c'est: Mais quelles sont les motivations réel du président Trump, par exemple, sur cette guerre au Moyen-Orient, menée de concert, rappelons-le, avec Israël. Aujourd'hui, il est compliqué d'apporter une réponse. En fait, on a plusieurs réponses à apporter. Et puis, mais l'histoire nous le dira. Avec la publication un jour d'archives confidentielles, par exemple. Est-ce que certains analystes disent, par exemple, qu'il s'est fait mener par le bout du nez par Netanyahou. et par Israël, en se laissant convaincre, influencé par Israël qui avait, qui, enfin par Israël, par le gouvernement israélien qui souhaitait cette guerre contre l'Iran. Donc ça, c'est une hypothèse. Certains disent dans le chat, c'est parce que c'est une histoire de pétrole comme pour le Venezuela. Certains disent c'est pour ses business personnels, ses investissements perso ou de sa famille. Voilà. Certains vont expliquer. Enfin voilà. Donc à un moment, alors c'est peut-être une. Il y a peut-être plusieurs raisons. Mais ça, l'histoire le dira. Là, on est dans le cœur du cyclone, donc c'est un peu compliqué d'être sûr des analyses. C'est peut-être un mix de tout ça. Mais l'histoire le dira. Enfin, j'espère. Ou alors c'est un mégalo qui veut laisser son nom dans l'histoire, me dit Monsieur Chips. Allez, sujet suivant. Bon, de toute façon, guerre au Moyen-Orient, je vous en rappelle. Je vous en parle sans doute de nouveau dès demain. On passe à la présidentielle avec trois articles sur 2027. Bon, on va en manger, hein, on va en manger de plus en plus, mais en même temps, l'enjeu n'est pas ridicule, hein, de savoir quel camp, quel homme, quelle femme dirigera. La France en 2027. Alors on va en manger beaucoup, peut-être trop. Et en même temps, le sujet est tellement essentiel. Donc on a trois dossiers, trois articles dans la presse de ce samedi matin sur le sujet. On va commencer par cet édito dans Le Monde, qui est une analyse signée Michel Noblecourt, dans Le Monde, qui estime, lui, que en raison de la multiplication des candidatures à gauche comme à droite, eh bien, se présente un risque de dispersion mortifère. Alors, mortifère parce que Michel Noblecourt ne le cache pas, lui, il estime que la perspective de voir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella élus ne serait pas une bonne nouvelle pour la France. Donc c'est une analyse engagée, hein. Vous la partagez pas, mais c'est son analyse. La voici. Que dit-il? Une telle avalanche de candidatures risque d'aboutir à un duel entre le Rassemblement national et la France insoumise, et lui le regrette. Pardon, excusez-moi, je lisais un message. À un an d'élection présidentielle, sur fond de grave crise internationale, la scène politique française est dans le brouillard. De l'extrême droite à la gauche radicale, on recense près de 30 candidatures potentielles, quand en 2022, on n'en comptait finalement que 12. Le record ayant été atteint en 2002 avec 16 postulants. Alors, il y a un truc dans l'analyse qui m'embête, c'est que il me semble que l'auteur de l'article compare des candidatures potentielles, aujourd'hui une trentaine, avec des candidatures finales, c'est-à-dire avérées, en 2022, 12 et 16 en 2002. Donc, voilà, Acroquézer est d'accord. Mais c'est pas la même chose. La question, c'est combien de ces 30 candidats potentiels vont pouvoir se présenter? Vont, un, se présenter, franchir le Rubicon, et deux, avoir les signatures, les 500 signatures. Hein, dans l'histoire de la Ve République, il y a beaucoup de candidats qui ont voulu se présenter et qui n'ont pas eu les 500 signatures. Donc, voilà. Déjà, premier bémol. Officiellement, seuls deux candidats sont aujourd'hui sur les rangs. Ça, c'est intéressant. Il n'y a que deux candidats officiellement déclarés. Bon, ça va s'accélérer, bien sûr. Bruno Retailleau, pour le parti LR, investi le 19 avril par son parti, et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Horizon, qui lui est parti depuis longtemps déjà. Certains disent qu'il est parti trop tôt. En tout cas, réélu à sa mairie du Havre, et tant mieux pour lui, puisqu'il avait fait de sa réélection dans sa mairie du Havre une condition à sa candidature. Donc deux candidats officiellement déclarés aujourd'hui. Voilà. À 12 mois de l'échéance, les sondages sur les intentions de vote sont à observer avec prudence, tu m'étonnes. Même à J-30, hein, il faut prendre des sondages avec prudence. Et à un an encore plus. Les sondages sur l'intention de vote sont à observer avec prudence, tant l'histoire a montré qu'ils étaient souvent éloignés de la configuration finale. L'auteur de l'article nous rappelle prudence avec les sondages. D'ici là, avec ou sans primaire, incertaine à droite comme à gauche, le paysage va s'éclaircir, sachant que le ticket d'entrée pour le second tour risque d'être plus bas qu'à l'accoutumée, autour de 15% au lieu de 20%. Un truc qui va sans doute inciter à la multiplication des candidatures, c'est que comme le paysage politique français est extrêmement morcelé, le ticket d'entrée de qualification pour le deuxième tour est beaucoup plus bas que d'habitude, estime beaucoup d'observateurs. Et ça favorise la candidature, bien sûr. Une telle avalanche de candidatures risque de s'avérer mortifère et d'aboutir, c'est la crainte de l'auteur de l'article, à un duel entre les champions du Rassemblement national et de la France insoumise. Un Crocazor me dit, je pense qu'on fait une fixette sur la présidentielle, mais on devrait davantage s'intéresser aux législatives. Je vois que ce que tu veux dire et tu as raison. On en a parlé il y a 2 jours. Il est tout à fait possible que le président ou la présidente élue en 2027 n'ait pas de majorité à l'Assemblée. On se retrouve dans la situation actuelle avec un président ou une présidente avec très peu de pouvoir effectif puisqu'il n'a pas de majorité pour soutenir sa politique et ses réformes. Tu as raison. Voilà. En fait, je pense que il faut se pencher sur les deux élections. Puisque le président ou la présidente élue en 2027 va dissoudre l'Assemblée pour tenter de dire aux Français, bah, donnez-moi maintenant les moyens de ma politique, donnez-moi une majorité idéalement absolue à l'Assemblée. Ça se produira ou ça ne se produira pas. C'est le retour du fait majoritaire ou pas le retour du fait majoritaire. Mais du coup, la présidentielle de 2027 ne sera rien sans le résultat des législatives qui suivront. Si Marine Le Pen est élue en 2027, ou Bardella, mais si l'extrême droite n'a pas de majorité au Parlement, ils seront empêchés, ils seront gênés. Hein, comme aujourd'hui, le président Macron est empêché et gêné pour mener sa politique. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est l'hypothèse qui est évoquée aussi ce matin, et qu'il n'a pas de majorité, idem. Les deux élections sont essentielles pour l'avenir de notre pays. Les deux, elles sont directement liées. Plus encore que d'habitude, puisqu'il y a ce fait majoritaire qui a accompagné l'essentiel de l'histoire de la Ve, qui faisait que quand un président était élu, puisque jusqu'ici on n'a eu que des hommes présidents, un président était élu, il avait quasiment systématiquement une majorité absolue ou relative à 2 reprises à l'Assemblée. Enfin, ce fait majoritaire, il a disparu avec une explosion du paysage politique français, hein, avec plusieurs gros pôles et pas seulement un grand camp gauche et droite. Hein. Donc c'est une petite révolution dont on est en train de comprendre les conséquences. Continuons. À droite, l'équation s'annonce très complexe. Bruno Retailleau veut incarner une rupture avec le macronisme, alors qu'il a été perdant pendant quoi? Pendant plus d'un an de ministre. Ah, c'est vrai qu'il avait été ministre. Qu'il a été ministre pendant un an d'Emmanuel Macron. Bas dans les sondages, alors c'est vrai que Retailleau est assez bas, il parie sur un croisement des courbes. Pourquoi Retailleau croit à sa victoire finale? Qui lui permettrait à l'automne de passer devant Édouard Philippe. Toujours le seuil de qualification assez bas. Et de faire oublier le score calamiteux de la dernière candidate de droite à une présidentielle, Valérie Pécresse, 4,78%, sous la barre des 5%, sous la barre du remboursement des frais de campagne. Perspective d'autant plus aléatoire que son camp est très fracturé. Quelles sont les chances de la droite? Quand je dis droite, ici comprenez droite républicaine LR. Perspective d'autant plus aléatoire que le camp est très fracturé. Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, qui lui aussi pense à la présidentielle, se comporte en élection libre, en électron libre, pardon, il n'a pas renoncé à concourir. Donc ça nous fait Retailleau, ça nous fait Bertrand. Ça nous fait David Lisnard, le maire de Cannes, qui vient de sortir du parti d'ailleurs, LR, qui a des ambitions depuis un moment déjà, qui a quitté LR pour se lancer dans la compétition. Alors, pas officiellement encore, je suis pas sûr que David Lisnard ait annoncé sa candidature, mais qui est une autre voie à droite. Laurent Wauquiez, qui se pose toujours en embuscade. Michel Barnier, qui juge qu'il a les qualités requises pour être président de la République. Ça fait beaucoup de monde à droite, hein, on récapépète. Retailleau. Bertrand, Lisnard, Wauquiez, Barnier, et on en oublie peut-être. Villepin. Alors il est. Je crois qu'on peut pas, on peut pas le comptabiliser dans LR, Villepin à ce jour. Mais oui, Villepin, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'est pas compté plutôt dans le bloc central? Parce que quelqu'un me parle d'Attal. Ah non, Attal, Philippe, ils sont comptés par Le Monde dans le bloc central. Là, on est dans le bloc LR. Alors, vous pouvez estimer que le bloc dit bloc central et un bloc de droite. Mais là, le monde parlait de LR. Et Attal n'est pas LR. C'est tellement illisible qu'on essaye d'être le plus carré possible, quoi. Justement, parlons du bloc central. Pour ce qui reste du bloc central, qui n'est ni un bloc ni central désormais, les ambitions apparaissent au grand jour. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, le voilà, secrétaire général de Renaissance, libéré de Macron, avec lequel il a rompu lors de la dissolution de 2024, fameuse dissolution ratée, est prêt à affronter Édouard Philippe, on est dans le bloc central. Il vient de publier, Monsieur Attal, un livre, une esquisse de programme. Ça s'appelle « En homme libre ». Philippe et Attal au centre, on n'a pas la même vision du centre, mais personne n'a dit que c'était au centre. C'est le nom institutionnel, le nom donné par les observateurs à ce bloc. Bloc central, ça ne veut pas dire qu'ils sont au centre. Ne vous laissez pas abuser par les mots. Le gars qui écrit l'édito vient de le dire. Pour ce qui reste du bloc central, qui n'est plus ni un bloc ni central, il vient de vous le dire. Il vient de le dire. Que c'est pas du centre. Écoutez-le. Les mecs viennent en opposition à un texte qui disent la même chose que vous. Bordel. Il vient de vous le dire. Il est d'accord avec vous. C'est l'invention des batailles qui n'existent pas, quoi. Je continue donc. Donc Attal, le programme. Donc bien décidé à aller jusqu'au bout. Ça en fait des gens qui sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Entre les deux anciens premiers ministres, donc on parle d'Attal et de Édouard Philippe, Gérald Darmanin, tiens, j'avais oublié lui, garde des sceaux et dernier grognard du président, se garde bien de dévoiler son jeu. Alors, bloc central, donc on a Édouard Philippe, Gabriel Attal, Darmanin. Je sais pas où ils mettent Villepin d'ailleurs. Villepin, je crois qu'ils le mettent nulle part. Où ils le mettent? Oui, à droite, bah oui, je n'ai pas communiste, je sais, mais dans quelle petite case de la droite ils le mettent? Parce qu'on en est là maintenant à essayer de trouver, mettre des gens dans les petites cases pour à peu près comprendre d'où ça vient, quoi. Oui, bah il n'est pas trotskiste, Villepin, ça, je sais, oui. Mais à droite, le problème du concept de droite, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser, il est trop flou. Rappelons que Marine Le Pen, elle dit qu'elle est à droite. Hein, Jordan Bardella, il dit qu'il est de droite. Même Éric Zemmour, à mon avis, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans le détail de ses discours, mais il dit qu'il est de droite. Donc la droite, le terme est tellement galvaudé aujourd'hui qu'à un moment, il faut être un peu plus précis. D'où LR, d'où bloc central, d'où, etc. Donc ça, c'est pour la droite, enfin LR et le bloc central. De son côté, la gauche offre l'image d'un long tunnel qui risque de déboucher sur une impasse. Petite phrase, mais qui résume très bien la situation pour la gauche. La gauche offre l'image d'un long tunnel qui risque de déboucher sur une impasse. Une primaire aux modalités encore floues est annoncée pour le 11 octobre pour départager Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui de plus en plus contesté n'est pas suivi par son parti, la chef des écologistes Marine Tondelier, les anciens insoumis qui ont quitté LFI, ou qui ont été mis dehors, je ne sais plus. Clémentine Autain, François Ruffin et Alexis Corbière. Alors, est-ce qu'il y aura une primaire à gauche entre toutes ces personnes? On y croit de moins en moins. Voilà. Ses chances d'aboutir sont de plus en plus faibles. Boris Vallot, le patron des députés socialistes, ne cache pas son opposition à cette primaire. Donc à gauche, maintenant, vous avez ceux qui sont pour la primaire, ceux qui sont contre la primaire. Boris Vallot est contre. Sans abattre toute cette carte, est-ce que Boris Vallot va y aller? Voilà. Y a François Hollande. Ben oui, il y a Nico Manga, peut-être François, il y a François Hollande qui se remet dans l'équation, dont on comprend aujourd'hui qu'il n'a pas totalement tiré un trait sur l'idée de redevenir président. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, également opposé à la primaire, qui s'est déclaré candidat sans être investi par son parti. Le sénateur écologiste Yannick Jadot et Karim Bouamran, le maire PS de Saint-Ouen, on a parlé avec la guerre du chicken poulet, je sais pas quoi là. Récemment, pourrait se joindre à la mêlée. À moins que messieurs Vallot, Guedj, Jadot et Bouamran rejoignent une coalition qui se cherche encore, ouvertement réformiste et résolument hostile à LFI et surtout à Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, on va pas parler de Glucksmann encore. Place publique qui a une bonne tenue dans les sondages mais peine à percer, rêve d'une fédération regroupant plusieurs forces social-démocrates, comprenez la gauche sans Mélenchon. L'ancien Premier ministre Cazeneuve, vous allez me dire, mais c'est sans fin, ben oui, Ben oui. L'ancien premier Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS et fondé une convention avec le Parti radical de gauche, se dit prêt à être candidat en 2027. Même Manuel Valls y songe, puisque certains me disaient tout à l'heure, ah, t'as oublié Manuel Valls. Ben non, il est là aussi. Même Manuel Valls y songe, ils pourraient être tous départagés par François Hollande, qui veut faire de son expérience internationale un atout pour tenter de retrouver une crédibilité. Donc on s'est penché sur la multiplication des candidatures à droite, à gauche, comme le dit Josgo 21, ça fait du monde. L'ancien président de la République multiplie ses contacts à gauche et au centre et se prépare à ciel ouvert. Alors quelqu'un me disait, et tu n'as pas parlé de Fabien Roussel chez les communistes? Secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, ne s'interdit pas de se présenter à nouveau. Tandis que Nathalie Arthaud a sauté le pas pour Lutte ouvrière. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui s'est scindé en deux pour avoir donc deux candidats. Et dans ce panorama, ah, Dominique de Villepin, le voici, tisse sa toile. Bientôt autant de candidats que d'équipes de foot à la Coupe du Monde, ça va faire une belle compétition, lis-je dans le chat. Dominique de Villepin tisse sa toile. L'ancien Premier ministre a fait un retour à grand bruit, fort de l'image positive à gauche de son discours aux Nations Unies en 2003 contre l'intervention américaine en Irak. Faisons oublier à ce stade le sévère revers que les syndicats lui ont infligé en bloquant en 2006 le contrat première embauche dont il avait été l'artisan. Sauf envolé encore. J'aime bien cet article parce qu'en fait, c'est pas grand. Il ne rappelle que des choses qu'on sait déjà. Mais il a cet intérêt, cet article, de faire une espèce de photographie à l'instant T, là, aujourd'hui, 2 mai 2026, de la situation politique de notre pays, qui dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pourrait être radicalement changé. Et maintenant, fin de l'article de Michel Noblecourt dans Le Monde. Une synthèse, exactement. Camin, dans un paysage politique qui en manque de synthèse. C'est une synthèse qui montre qu'il y a un problème de synthèse en France. Sauf envolée encore hypothétique d'Édouard Philippe ou de François Hollande, le second tour de l'élection présidentielle risque de se jouer, estime l'auteur de l'article, entre Jean-Luc Mélenchon, qui bat pourtant des records d'impopularité, et probablement Jordan Bardella. Bon, là je trouve que l'auteur de l'article enjambe un petit peu le rendez-vous judiciaire du 7 juillet, mais bon. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la justice ne va pas revenir en arrière et va déclarer Marine Le Pen inéligible en 2027. Moi, je trouve que je serais pas si catégorique. C'est la justice qui décide. Donc, risque de se jouer entre Jean-Luc Mélenchon et probablement Jordan Bardella, le président du RN, si Marine Le Pen, comme l'extrême droite semble s'y résigner, est condamnée en appel le 7 juillet à l'inéligibilité. Lionel Jospin. Vous allez me dire, mais Jospin, qu'est-ce qu'il vient faire Lionel Jospin là-dedans? Il est mort. Oui, bah oui, il le sait. Mais pourquoi Lionel Jospin? Parce que, imaginez Lionel Jospin candidat. Bon, il va me dire il est mort. Ça peut être possible. Il est mort, hein? On est d'accord, hein? Il est mort. Hein? Oui, hein? Il est mort. Mais imaginez! Imaginez! Fermez les yeux. Imaginez, fermez les yeux, il n'est pas mort. Imaginez, Jospin dit, je reviens en politique. Je reviens en politique. Et avec la même solennité que celle qu'il a utilisée pour annoncer son retrait de la vie politique après son élimination au premier tour de la présidentielle au détriment de Jean-Marie Le Pen, première fois qualifié pour le deuxième tour d'une présidentielle, imaginons que Lionel Jospin, vivant, pas mort, annonce solennellement son grand retour en politique pour se présenter à la présidentielle 2027. Eh bien, il manquerait plus que ça. Bon, ben, il est mort. Donc, on n'aura pas ça. Lionel Jospin, qui jusqu'à la fin de sa vie a rêvé d'une renaissance ou d'autres formes de la gauche plurielle, dont la dispersion de la présidentielle de 2002 a pourtant conduit à sa mise à l'écart du pouvoir, n'aurait pas aimé un tel scénario. Pour la troisième présidentielle d'affilée, la gauche serait privée d'accéder à l'Élysée. Ce serait pour elle, comme pour la droite républicaine, le retour de la machine à perdre. Pour résumer cet article, la droite LR. La droite traditionnelle, la droite composée de LR et du Bloc central, et de quelques électrons libres, et la gauche non mélenchoniste, Voilà. Et divisé, fourmille de candidats putatifs potentiels qui en rêvent, voilà, de l'Élysée. Et cette dispersion est un facteur favorisant un deuxième tour Mélenchon-RN. Voilà. Peut-être qu'il ne se trompe pas. Si au soir du premier tour, en 2027, on se retrouve avec un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella, on repensera cet article de Michel Noblecourt un an auparavant et on se dira, eh, il avait raison, Michel. Mich-mich. Il avait raison. Voilà. Puis là, il faudra choisir. Je vous lis. C'était sans compter sur le retour de Louis XVI, me dit Thiernaud de Bergerac. Ouais, enfin, ça me semble compliqué quand même. J'ai l'impression, me dit un grand homme Goujon, que Villepin va beaucoup drainer les voix de la gauche. Il est plus acceptable et normie-friendly que Mélenchon pour de nombreux votants. Je me trompe peut-être, mais le duel Villepin-Bardella me semble le plus probable pour l'instant. Ouais, les sondages, c'est pas encore ça pour l'instant. Pourquoi pas? Ouais, c'est intéressant. Oui, mais encore faut-il, si tu veux. Alors, imaginons que Villepin décolle dans les sondages. Imaginons que Villepin décolle dans les sondages. Il faut qu'il soit devant Mélenchon au soir du premier tour. Et ça, c'est très compliqué, c'est très chaud. Parce que, il n'est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon fasse un bon score au premier tour. Il ne s'agit pas d'être le premier de tous les autres, il s'agit d'être le deuxième du premier tour. Puisqu'il est, sauf énorme accident, il est évident que le candidat en tête au premier tour, c'est un candidat RN. Aujourd'hui, si l'élection avait lieu aujourd'hui. Donc la question, c'est qui est le numéro 2 pour aller au deuxième tour? Si Mélenchon est devant Villepin, il n'y a pas de Villepin. N'y a pas de Villepin. À Java Mulot, je ne pense pas que Villepin puisse passer le premier tour au deuxième. Il ferait consensus, mais il ne plaît ni à la gauche ni à la droite. Ça, c'est une analyse que j'ai lue, ça. Villepin serait un. J'ai lu ça. Cette analyse qui est partagée par d'autres. C'est-à-dire que Villepin serait un excellent candidat de deuxième tour face au RN, mais qui ne passera pas le premier. Voilà. Il y a un monde où Le Pen peut se présenter et où ça se déchire entre Le Pen et Bardella. Non. Pour deux raisons. Si la justice déclare Marine Le Pen inéligible, elle ne peut pas se présenter. Point. Si la justice déclare Marine Le Pen éligible le 7 juillet, et on fera un live le 7 et le 8, bien sûr, pour en parler, dans ce cas-là, Bardella n'aura d'autre choix que de se ranger derrière Marine Le Pen. Au RN, ex-FN, tu as une tradition historique dans l'ADN du parti. Il y a un chef. Voilà. Et c'est un parti qui sait exclure et mettre de côté ceux qui se rebellent contre le chef. Bardella ne pourra jamais se dresser devant une Marine Le Pen éligible. Historiquement, naturellement, la candidate du RN, c'est elle. Ce n'est Bardella que si Marine Le Pen ne peut pas y aller, si elle est empêchée. Donc ça, je n'y crois pas. Une guerre des chefs au RN, je n'y crois pas. Et si Bardella avait cette tentation, et si Bardella avait cette tentation de lancer cette guerre des chefs, de dire aux militants, ok, elle est éligible, mais il faut que ce soit moi, ou je crée un autre parti, je ne suis pas sûr qu'il sera suivi par la majorité des militants, des sympathisants, des élus du RN. Voilà. Mais alors je peux bien me tromper, hein, aussi, hein, ce n'est que mon analyse. En tout cas, ce serait un cadeau merveilleux fait à leurs adversaires. Parce que si vous divisez les voix du RN entre deux candidats au premier tour, entre une Marine Le Pen éligible et un Bardella qui se dresse contre Marine Le Pen, là, là, vous, là, là, vous, Là, vous créez la possibilité que deux autres candidats se qualifient pour le deuxième tour sans candidat RN. Ce serait un immense cadeau. Alors je voilà. Mais je n'y crois pas. Après, je n'y crois pas, et en même temps, c'est de la politique. Je ne suis pas dans la tête de Bardella. D'abord, c'est nous partons de l'hypothèse où Marine Le Pen n'est pas déclarée inéligible par la justice, et ça, nous ne savons pas, nous le saurons 7 juillet, donc c'est un peu tôt pour se poser la question. Et nous ne sommes pas dans la tête de Bardella. Je ne l'imagine pas, mais je peux me tromper. Je vous lis, 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 je vous lis. Je remonte dans le chat. Je lis encore un ou deux messages et on enchaîne. Sokna nous dit, le match n'est même pas joué. Je fais du tractage et dans les échanges, beaucoup de personnes peuvent basculer de RN à LFI. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut hésiter entre un vote RN et LFI. Je ne vois pas bien le lien entre les deux programmes. Pour le coup, là, j'avoue que je bug un peu. Est-ce que ces gens se sont penchés sur les programmes des deux partis, sur l'histoire de ces élus, de leurs élus? Là, j'avoue, je bon. Mis à part le côté anti-système et le côté que ni l'un ni l'autre n'ont accédé à la magistrature suprême, il n'y a pas eu de candidat LFI président, ni l'extrême droite. Voilà. Mais bon. Un vote de dégagisme, mais tu dégages quoi exactement quand c'est la motivation de ton vote, tu dégages quoi là? Pardon, hein, mais les personnes dont nous parlons là font partie du système depuis toujours. Hein. Dégagisme de quoi? Jean-Luc Mélenchon est dans l'histoire de la vie politique française depuis combien de décennies? Ancien ministre socialiste qui écrit une autre histoire politique depuis quelques années, mais bon. On ne peut pas vraiment parler d'un nouveau venu. Marine Le Pen? Une nouvelle venue dans le paysage politique? Et Bardella n'est que qu'un produit de l'histoire Le Pen. Donc je vois pas bien ce qu'on dégage là. Mais bon. Qui lit les programmes, dit Axel. Ben, on devrait tous lire les programmes. En tout cas, ce qui serait très intéressant, je ne sais pas si c'est le mot, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, là, au soir du premier tour 2027, avec cette affiche. Imaginez un instant. Voilà. Le Pen, Mélenchon, ou Bardella, Mélenchon. Et là, on a, c'est quoi, 2 semaines, entre les deux tours, je sais pas, une semaine, deux semaines, entre les deux tours. Et qu'il faut décider de savoir qui d'un candidat RN et de Jean-Luc Mélenchon, ou de Jean-Luc Mélenchon, préside aux destinées de la France pour 5 ans. Voilà. Improbable. Sur le papier, c'est ce qui est le plus probable, n'est-ce pas, aujourd'hui. C'est 2 semaines. Bon, ça nous fera du contenu. Ça nous fera du contenu. Alors, ce n'est que le premier article sur la présidentielle que je vous ai mis de côté ce matin. J'en ai un deuxième, justement, dans Libération, c'est même la une. C'est peut-être celui-là qu'on met sur. Ouais, peut-être celui qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs. Qui est sur un appel de Libération à la gauche pour qu'elle se réveille. Bon, on va peut-être mettre ça. Ah, j'aurais peut-être dû vous mettre le premier, en fait, c'était pas mal. Ah, le premier thème, en fait, vous trouvez pas que le premier, vous trouvez pas que celui qu'on vient d'avoir là, tiens, Mathieu, tu trouves pas que le débat qu'on vient d'avoir sur la dispersion mortifère, C'est ça qu'on aurait dû mettre sur YouTube, parce que je trouve que c'est très intéressant ce débat. Plutôt que l'appel de libération à la gauche. T'en penses quoi? Oui, hein? En vrai, c'était plutôt intéressant, en fait, hein. On fait ça? Donc, je vais vous faire un. Ok. Du coup, je vais tricher. Je vais faire un lancement enregistré a posteriori. Ne faites pas ça à la maison, c'est un mensonge et de la triche. Les enfants qui me regardaient ce matin, ce samedi matin, ne faites pas ça, c'est du mensonge. Voilà. Et dans le chat, ne me balancez pas aux amis de YouTube. Ne dites pas, il l'a enregistré après et tout. Ok? Je vous fais confiance. 3. Attendez, je cale bien l'article. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinale. La matinée Étienne sur Twitch. 5 ans de revue de presse. Et de temps en temps, oh, que dis-je, tous les jours, on met en avant une actu pour la partager avec vous, amis de YouTube. Et on voulait parler avec vous ce matin de la présidentielle avec cet article. Regardez. Dans Le Monde, signé Michel Noblecourt, qui nous dit sur le papier aujourd'hui. La probabilité la plus forte de l'affiche du deuxième tour de la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon versus le candidat du RN, qu'il soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que au nombre d'ambitions et d'appétits présidentiels dans la droite LR et le bloc central d'un côté et la gauche non mélenchoniste de l'autre, eh bien, au vu de la multiplication des candidatures qui pourraient se produire, c'est l'affiche de second tour la plus probable. C'est parti. Là, Mathieu, il coupe, il recolle au début, bim bam. Incroyable. Je vous ai vu dans le chat que vous n'avez pas joué le jeu. Hein. Je vous ai vu me dénoncer là. J'ai vu les. Samuel, tu perds la mémoire? On a déjà fait cet article, t'as oublié? Bazou, je t'ai vu. Hein. Hein. Le sommaire qui traite. Oui, je sais, le sommaire était. YouTube vous ment! Je vous vois, hein, ceux qui n'ont pas joué le jeu là. Alors qu'il y en a qui ont joué le jeu. Je vois des menteurs, je vois des sensations de déjà vu dans le chat. Voilà. YouTube, on te ment, monsieur Chips. Je vous vois, hein, je vous lis. Hein. Nom de Dieu. Ah, les enfoirés. Bande d'enfoirés. Bon, je continue. Avec donc le deuxième article sur cette page présidentielle. Sur cet appel de Libération, qui est un journal de gauche. J'aime bien les médias engagés à condition qu'ils ne cachent pas leur engagement. Voilà. Une éditorialisation, un engagement citoyen de valeur, voire politique d'un média, mais qui ne le cache pas, moi ça me va. Ce qui me gêne plus, ce serait, imaginons, inventons complètement une chaîne d'infos qui nous dise, ah, mais nous on n'est pas une chaîne, nous on n'est pas une chaîne engagée, nous, on est la chaîne de toutes les opinions. Nous, mais pas du tout en avant certaines valeurs ou certains invités ou certains élus. Hein. Nous, on est totalement neutre. Hein. Voilà. Donc ça, ce serait pas. Bon, ça n'existe pas, bien sûr. Hein. Il n'y a aucune chaîne d'info qui fait ça en France. C'est-à-dire à avoir un compte très éditorialisé, mais à ne pas l'assumer. Aucune ne fait ça. Ça se saurait. Bon, Libération, par exemple, là, c'est un journal de gauche qui porte des valeurs de gauche, qui le dit, qui l'assume, qui l'a jamais caché. Et qui dit à la gauche, réveille-toi. Ça rappelle un petit peu le Jean-Marie Le Pen qui disait à Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'il disait? Oh, Jeanne, sauve-moi. Hein, je le fais très très mal. Mais là, c'est Libération qui dit, gauche, réveille-toi. Toujours aussi mal joué. D'ailleurs, on vient de me proposer un petit rôle dans un film, un court-métrage. Et j'ai répondu, un, que j'étais pas disponible pour les dates, c'est en juillet. Et juillet, c'est la famille. Et deux, qu'ils trouveront sans doute difficilement pire acteur que moi, comme je viens de le. Démontré d'ailleurs. Mais si je change les dates, je jouerai peut-être ce rôle. Ça me ferait trop marrer. Face à la menace de l'extrême droite et alors que Jean-Luc Mélenchon se prépare en solo, le reste de la gauche peine à s'entendre et multiplie les candidatures dont Libé, acteur de la société civile et militant, appelle au sursaut. Un peu comme ça. La moustache de Talk, merci pour le soutien. Édito, Dame Dame Mostafavi, qui écrit de bons éditos dans Libé. Chamaillerie, le temps presse. Une petite année nous sépare d'une échéance que tous savent fatidique, mais devant laquelle chacun semble tétanisé. La gauche sait que la menace RN a tout pour se matérialiser à l'élection présidentielle de 2027. Bon, on vient d'en parler. En attendant, la rupture en son sein est déjà consommée. Jean-Luc Mélenchon est prêt à partir de son côté. Tout indique qu'il annoncera très très vite. Donc Libé nous dit que la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pourrait être annoncée très prochainement. Alors que le leader de la France insoumise est déjà sur la rampe de lancement, le reste de la gauche semble, elle, clouée au sol. J'aime vous mimer l'actualité. Voilà, j'aime quand ça mime ici. Prise dans les chamaillements de chapelle, elle regarde avancer la comète de l'apocalypse sans parvenir à réagir. Militants, chercheurs, élus locaux la voient arriver. Ils appellent les responsables des différentes sensibilités de gauche à se ressaisir et à avancer vers le choix d'un candidat commun pour 2027. On a envie de rigoler. On imagine la gauche non LFI en réussir à s'unir pour un candidat unique. Et là, on rigole. Et là, on sait que ça n'arrivera pas. On peut se tromper. Mais on va continuer à lire quand même, pour le plaisir. Ah, mais c'est très compliqué. La primaire de la gauche unitaire prévue en octobre aura-t-elle lieu? Rien n'est moins sûr. Voilà déjà une première question à résoudre, mais les enjeux sont aussi de fond. On le voit dans les désaccords entre François Ruffin et Marine Tondelier sur la question de l'immigration. François Ruffin qui vient de faire une déclaration sur son opposition à l'immigration de travail, je crois. On va en parler dans l'article. Sur de nombreux sujets qui structureront la présidentielle, sécurité, pouvoir d'achat, relations internationales, la gauche peine à tracer des lignes de démarcation claires. Lors des municipales, déjà un grand flou a prévalu, variant au gré des réalités locales. Vous vous souvenez, union, pas union, hein? La gauche ne peut pas se contenter d'être contre l'extrême droite. Elle doit aussi rappeler sa capacité à apporter des solutions concrètes et à façonner le réel à l'image de ses valeurs. Lutte contre les inégalités, renforcement des services publics, droits des travailleurs, transition écologique, liberté individuelle, protection contre la discrimination. Dans un monde secoué par Trump, dans une Europe où l'extrême droite progresse et parfois gouverne, les repères se brouillent, les lignes rouges s'effacent à force d'être franchies. En France, la gauche a pourtant quelque chose à dire, ça c'est en tout cas l'avis de Libé, mais pour cela elle doit parler d'une voix unie et forte, t'as encore envie de rigoler. Le temps presse donc, il devient urgent de mettre les égos de côté et de construire une ligne commune capable de faire face à 2027 en ordre de bataille, car avant d'espérer remporter ladite bataille, encore faut-il être en mesure de la mener. Regardez cette petite souris Microsoft qui date d'une autre époque. Vous voyez cette petite souris là? Je suis parti sans souris de Paris. J'ai récupéré auprès de mon beau-papa une souris historique. Hein? Et comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Si la gauche non mélenchoniste arrive à s'unir autour d'un candidat ou d'une candidate pour 2027, je mange cette souris. Je la mange. Je demande à mon beau-papa de me l'envoyer par la poste en France et je la mange. Je la mangerai. Voilà. C'est pas une souris à boule. Non, elle est une souris laser. Pas cap, si cap. Je prends pas un gros risque. Candidature unique de la gauche non mélenchoniste 2027, je mange cette souris. Je mange cette souris. Eh oui. Mais on verra. Le temps presse donc, écrit l'éditorialiste de Libé, il devient urgent de mettre les égos de côté, de construire une ligne commune capable de faire face à 2027 en ordre de bataille, car avant d'espérer remporter la dite bataille, encore faut-il être en mesure de la mener. La gauche de Waouh, enlevons Nathalie Arthaud, enlevons le NPA, ok, enlevons ce qu'on peut appeler l'extrême gauche, enlevons LFI, puisque j'ai dit gauche hors LFI, voilà, et partons du Parti communiste au socialiste, en passant par les écologistes, Glucksmann et tutti quanti. Voilà. D'accord? On va dire la gauche non extrême gauche et hors LFI. C'est clair. Non, je vois que certains veulent me voir manger la souris, donc vous demandez une définition précise, quoi. Alors, lisons le dossier de Libé. D'abord, il y a cet article, malgré l'absence d'union, un début d'ébullition d'idées, ça je vous le lirai tout à l'heure, mais on lira d'abord l'article de Lucie Alexandre sur un petit peu une photographie à l'instant T de la gauche aujourd'hui, la gauche non LFI. Avec un cauchemar d'abord raconté par une dame qui s'appelle Claire Nouvian, qui est une fondatrice d'une ONG de défense des océans, Bloom, et qui raconte à la journaliste un cauchemar, les images qui ont hanté son sommeil. J'étais en prison après un procès politique. C'était ma dernière nuit avant d'être exécuté le lendemain. C'était le couperet qui tombait des forces de la haine au pouvoir. Pop, 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 pop. Si la psychanalyste préconise de ne pas interpréter les rêves de façon trop littérale, la source de l'inquiétude n'a en l'occurrence rien de refoulé, dit cette directrice d'ONG qui dit « Je suis en déprime démocratique ». Pour moi, l'état de droit est quelque chose de précieux qu'il faut descendre par-dessus tout. À un an de la prochaine présidentielle, dans un contexte où l'extrême droite n'a jamais eu autant de chances de s'installer à l'Élysée et que Jean-Luc Mélenchon est sur le point d'officialiser sa quatrième candidature, c'est peu de dire que la société civile de gauche, qui s'était mobilisée lors des législatives de 2024, ne dort pas sur ses deux oreilles. Je n'ai jamais compris cette expression. J'ai déjà essayé à de maintes reprises. On ne peut pas dormir sur ses deux oreilles. Tu dors sur une oreille. Ou sur droite, ou sur l'autre oreille gauche, ou sur zéro si tu dors le dos comme ça sur le dos, voire sur zéro si tu as la tête enfouie dans l'oreiller, mais tu ne dors jamais sur deux oreilles, même sur de grandes oreilles. Alors, cette expression n'a aucun sens. Avec deux oreillers? Ah, ok. Tu te mets sur le côté et tu fous un coussin sur ta tête? Ah ouais. Ah ouais. Si tu as une malformation et que tu as les deux oreilles du même côté, ah, j'avais pas pensé à ça. Comment ça, Bayrou, il peut? Comment ça, le roi Charles, il peut? Ah non, ça non. Ah non, le physique, non. Non, les blagues sur le physique, c'est non. Non, 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 non. C'est non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. C'est non. Je ne contracte pas. Hors des rangs insoumis, le pari de Jean-Luc Mélenchon de gagner au second tour face à Marine Le Pen ou Bardella ne convainc pas, estime Libé. Bon, si vous êtes dans le chat sympathisant LFI, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette analyse. Hein. Libé dit, hors les rangs insoumis, le pari que Mélenchon peut gagner face à un candidat d'extrême droite ne convainc pas. Bon, en tout cas, c'est ce que disent les enquêtes, les sondages. Aujourd'hui, à un an de la présidentielle, ce ne sont que des enquêtes, hein, des sondages, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais il n'y a pas un sondage qui dit que Mélenchon peut battre un candidat RN. C'est vrai. Salut, Rodan. De son côté, le PS s'embourbe dans les chicaneries internes sur la façon de désigner un candidat susceptible de rassembler cette gauche LFI, donc c'est la primaire. Et les camps des pro-primaires qui organisent mardi prochain à la Bellevilloise une réunion publique destinée à sauver cette primaire, donc pour désigner un candidat commun, est en train de se fissurer. Invitée de Sud Radio vendredi matin, Marine Tondelier, candidate des Écolos, s'est dite en colère contre François Ruffin après l'avoir entendu expliquer qu'il était hostile à l'immigration pour le travail. Juste avant, elle s'en est pris à l'attentisme des socialistes dans la période. C'est navrant, voire indécent, je suis choquée. Ya Praknor dit normalement Mélenchon défonce Bordella, pas dans les sondages en tout cas. Pas dans les sondages en tout cas. On a compris que Jean-Luc Mélenchon ne viendra pas dans la primaire, alors arrêtez de déconner les gars. Dit-elle, faites votre vote, laissez choisir vos militants, qui, à mon avis, choisiront comme vos électeurs de oui, faire une primaire, dit Marine Tondelier. Marine Tondelier, choc-barre, exactement, crie-elle. L'espace social-démocrate est dans une impasse stratégique, analyse Benjamin Morel, qui est un constitutionnaliste. Cette phrase, elle est intéressante. L'espace social-démocrate est dans une impasse stratégique. Benjamin Morel dit, deux points, voilà les guillemets, on risque d'avoir certaines candidatures de gauche seulement à valeur de témoignage pour préparer la suite en attendant la véritable retraite de Mélenchon. Voir le passage au pouvoir de l'extrême droite, voilà, et on revient 5 ans plus tard en espérant que ça s'est très mal passé, en disant, bon les gars, maintenant c'est notre tour. Donc des gens qui feraient l'impasse sur 2027 finalement. Constat qui suscite autant d'impatience que d'incompréhension dans l'écosystème progressiste, des intellectuels au milieu associatif, chez des potes chercheurs de gauche qui m'interpellent sous l'angle, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous nous faites honte, raconte un membre du PS, du Bureau national. Car si la route est encore longue d'ici au premier tour, le chemin s'enfonce dans le brouillard, avec la conscience que le précipice n'est pas loin. En tant que personne qui a longtemps été dans les partis politiques, je n'ai absolument plus aucun désir de participer à tout ça, alors qu'on est peut-être à la veille d'une grande bascule et qu'il faudrait mener le combat. Ça pose question en soi, dit par exemple Lucille Schmitt, cofondatrice d'un. Think tank. Personne n'a plus envie de lire l'actualité politique parce que c'est devenu le récit des guerres personnelles en coulisses, rien n'est transparent. Il y a 2 jours, il y a 2 ou 3 jours ici, dans cette revue de presse, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à lire un article. sur les divisions à gauche pour la présidentielle, j'ai arrêté de lire cet article au bout de quoi, d'un tiers à peu près. Vous vous rappelez? C'est aucun intérêt. L'article ne parlait pas de programme, ne parlait pas de promesses, ne parlait pas du fond, ne parlait pas ne parlait que des appétits des uns et des autres. C'était au-dessus de ma force, au-dessus de mes forces. J'ai arrêté de lire cet article. Bon, bah, c'est ce que dit cette dame aussi. Personne n'a plus envie de lire l'actualité politique parce que c'est devenu le récit des guerres personnelles en coulisses. Rien n'est transparent, sauf qu'au bout d'un moment, le plus important, c'est ce qui se passe sur la scène publique, c'est ce qui est dit sur le ring. Ouais, pas convaincu, moi. Alors, dans ce débat public jugé chaotique, des chercheurs s'interrogent pour savoir quel candidat conseiller. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire se demandent où pousser leur thèse, auprès de qui. Comme la politique se méfie des prophéties, pardon, autoréalisatrices, les plus pessimistes ne livrent toutefois le fond de leur pensée qu'une fois les micros éteints. Surtout, par exemple, quand micro éteint, on dit qu'il s'agit surtout de se préparer psychologiquement à voter utile pour Édouard Philippe dès le premier tour pour éviter l'extrême droite. Il y a des gens de gauche qui se disent, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va voter Édouard Philippe au premier tour pour qu'Édouard Philippe se qualifie aux dépens de Mélenchon, pour que le deuxième tour ne soit pas le RN Mélenchon, mais soit Édouard Philippe Mélenchon. Il y a des gens à gauche qui se disent ça. Ce genre de scénario, la hongroise, peut exister parce que l'électorat est souvent plus stratège que les partis et que la valeur socle qui fédère la gauche, c'est bien l'antifascisme, admet la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Mais moi, je ne peux pas me résoudre à ce que tout soit foutu pour la gauche parce que l'enjeu est trop grand. Les solutions les plus farfelues qui sont mises sur la table dans les dîners en ville sont malgré tout révélatrices d'une situation qui s'apparente de plus en plus à un cul-de-sac. Émerge le fantasme d'une candidature de la société civile qui... Ah! Il y a cette hypothèse aussi. Le fantasme d'une candidature de la société civile, donc quelqu'un qui n'est pas un homme ou une femme politique, qui émergerait là, demain, après-demain, dans les prochaines semaines, les prochains mois, hein, qui surmonterait par magie les obstacles partisans, par une dynamique favorable qui s'imposerait d'évidence. Alors trouvons une personne de la société civile qui serait capable d'unir un camp hors extrême droite, hors Mélenchon. Ha! Donnez-moi des noms. Alors, à part les blagues, Valls, Pigasse, mais jamais Pigasse ne serait en capacité. Pigasse, qui détient un groupe de médias. Samuel Etienne, mais vous savez bien que cette petite histoire drôle qu'on raconte ici, elle ne tiendrait pas la corde de la. Du combat du combat de l'arène politique, de la réalité de la politique. C'est le pari de Villepin que de faire du transpartisan à la De Gaulle, me rappelle Lucie Liberté. Je peux me tromper, mais moi j'estime qu'aujourd'hui il n'y a personne. Je peux me tromper, hein. Mais moi j'estime qu'aujourd'hui cette personne n'existe pas. Voilà, elle n'est pas apparue. Des noms sont testés, réapparaissent comme celui de l'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger. Rappelons la séquence de recherche d'un Premier ministre adoubé par la coalition du nouveau Front populaire. On se rappelle de Lucie Castet, qui avait mis tout le monde d'accord, mais sans que cela lui permette de gouverner. Il s'agit d'attendre un miracle, c'est-à-dire un Mamdani, le président d'une ONG. Attendez, Mamdani, c'est qui? Est-ce que c'est le nouveau maire de New York, c'est ça? C'est ça, hein? C'est aussi la saison des pourquoi pas un tel. La silhouette du chiraquien Dominique de Villepin y occupe une place de choix. Hein, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est qu'il perd, c'est qu'on réussisse à le convaincre que de certains principes pour sauver l'essentiel de ce qui peut être. Imagine le même associatif. C'est l'anti-Mélenchon, Villepin, estime Benjamin Morel, un très bon candidat de second tour, mais qui n'a pas vraiment d'espace pour franchir la barre du premier, c'est ce que je vous disais. Salut, Volodrone. Pour 2027, ce sont les idées qui se cherchent un champion et non l'inverse. Dans un accès de pragmatisme ou de désespoir, certains experts du climat voudraient bien offrir leur service pour résumer au candidat le moins trumpiste qui a le plus de chances de gagner. Il faut rappeler que la gauche a déjà raté deux fois consécutivement la marche du deuxième tour. et que l'échec de 2022 a laissé des traces. Je vous lis. Tu pourrais faire voter les jeunes, me dit Chevalier Saumon, mais je me ferai. À l'instant où j'émettrai l'idée d'une candidature issue de la société civile, incarnée par moi avec mon gros melon là, de créateur de contenu, je me ferai déchirer par l'intégralité de la classe politique dont nous sommes en train de parler. Voilà. Les coups viendraient de partout. De partout. De tous les camps. De tous les partis. Je me ferai déchirer. La violence de ce milieu est gigantesque. Ça se passerait très très mal. Il faudrait que je me tape toutes ces attaques et que je rende la monnaie de leur pièce à tous ces. À Est-ce que vous êtes de retour? Est-ce qu'on est de retour? On est de retour? C'est bon? Je suis là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez ou pas? Non, on se relance. Si, c'est bon? C'est bon? Voilà. Ah, je pense qu'on a eu un petit problème de connexion. Voilà. F5, on est de retour. F5, on est de retour. Ah, c'est le Maroc, c'est voilà, c'est pas. C'est un problème de stabilité au niveau de la co. Voilà. Quelqu'un a dû toucher le fil dans la rue. Il y a beaucoup de chantiers dans le coin. C'est la deuxième coupe. Voilà. Donc vous me confirmez que vous me voyez, vous m'entendez de nouveau?
Mais non! Mais hasard de dingue!
Voyez, quand je parlais de la violence de ce milieu politique. Au moment où nous abordons une hypothétique candidature à la présidentielle de 2027, au moment même où je vous dis que les attaques viendront de partout, de tous les camps, de tous les partis, et que ce sera d'une violence extrême, au moment même où j'évoque cette hypothèse, le stream est coupé. Voyez ce qui nous attend? Eh oui, Run Deal, ils ont peur. Eh oui, ils ont peur. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Eh oui.
Mais non! Mais hasard de
À
dingue!
la seconde même. À la seconde même. Vous voyez ce qui nous attend? Enfin bon. Alors, est-ce qu'on est optimiste malgré tout? Voilà, l'IB. Publie un encadré sur un début d'ébullition d'idées à gauche. Bah, vous savez que moi je préfère m'intéresser plutôt aux idées, aux programmes qu'aux personnalités. Donc bah, lisons s'il y a des trucs un petit peu séduisants cette histoire. Hein? Si l'éventualité d'une candidature commune en dehors de celle de Jean-Claude Mélenchon semble utopique à ce stade, des propositions de fond ont été mises sur la table ces dernières semaines, ces derniers mois. Une condition préalable pour identifier des convergences. Lisons. Alors, c'est quoi les idées? Vite fait. Le PS travaille sur son projet. C'est le fruit d'un chantier collectif entamé il y a un an, coordonné par l'eurodéputé Chloé Ridel, le 22 avril dernier. Le PS a rendu public une ébauche programmatique, alors c'est une ébauche, hein, qui entend reprendre la défense de la liberté à la droite et à l'extrême droite. 800 mesures qui ne sortent pas de nulle part, hein. La plupart d'entre elles sont issues des travaux parlementaires de ces dernières années. La taxe Zucman, par exemple. Le retour de la retraite à 62 ans sur une durée de cotisation de 43 annuités. Ce n'est pas encore un programme, hein. C'est une ébauche programmatique. Des mesures fortes en matière d'environnement, comme la nationalisation des autoroutes, l'alignement de la taxation du kérosène sur celle des autres carburants. Voilà. Après l'avoir amendé, les adhérents socialistes sont appelés à le ratifier par un vote au mois de juin. Bon, il y a quelque chose. Ça, c'est le côté PS. Vous êtes toujours là ou ça a recut? Ça part. Vous êtes là, hein? Ça part recut, hein? Rassurez-moi. Oh, ouf. Boris Vallaud et son concept de la démarchandisation. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous êtes là, vous êtes là. Le chef des députés PS, qui pourrait bientôt ajouter son nom à la liste des prétendants à gauche pour 2027, élabore un concept clé depuis le dernier congrès du parti. La démarchandisation est d'abord un constat, le monde est devenu une immense boutique. Ben, c'est vrai ça. Hein. Hein. Puis une aspiration susceptible de capter un électorat au-delà du seul étiage actuel de la gauche autour de 30%. Reste à décliner ce concept de démarchandisation. Qu'est-ce qu'on démarchandise? Qu'est-ce qu'on enlève du marché comme secteur d'activité? Hein. Là, par exemple, on parlait de le PS parle de la nationalisation des autoroutes, par exemple. Est-ce que la liberté d'expression sur Internet, est-ce que ça ne peut pas se démarchandiser, par exemple? Hein. Reste à le décliner en mesures concrètes. C'est très beau, la démarchandisation. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? Dont certaines figurent déjà dans le programme du PS. Valo n'hésite pas à citer des exemples de ce qui existe déjà dans son bastion des Landes. Hein. Régie publique de l'eau. Hein. Absence d'EHPAD privé. Hein. Avec l'idée de généraliser ce qui a déjà fait ses preuves. Voilà, ça c'est Boris Vallot. Les écologistes ont 21 priorités. On a tendance à l'oublier, mais les Verts aussi sont dotés d'un projet, selon un calendrier similaire à celui du PS, avec une adoption prévue en juin. Une base résumée en 21 priorités par Marine Tondelier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Lutte contre la concentration des médias. Planification de la relance industrielle du pays. Financement des services publics par la contribution des ultra-riches. La majorité des directions de cette base programmatique sont convergentes avec les socialistes, note Libé, à l'exception d'un point identifié au PS par Chloé Ridel, la sécurité sociale écologique. Nous ne voulons pas que son financement repose sur le travail et les cotisations sociales, précisait la Libé. Par ailleurs, les écolos ont lancé il y a une semaine leur conseil scientifique présidé par Cédric Villani. Tiens. Ok. Voilà pour les écolos. François Ruffin. En meeting à Lyon dimanche, l'ancien insoumis, on va parler d'immigration, là, a donné le coup d'envoi de sa campagne présidentielle en dévoilant un premier livret sur son thème de prédilection, le travail. Car Ruffin a choisi de séquencer la publication de son projet en collant à l'actualité en l'espèce au 1er mai. On y retrouve la création d'un statut pour les travailleurs essentiels, le doublement de la rémunération des heures en horaires atypiques. Alors moi, là je dis oui, hein. Moi qui ai travaillé des années en matinale, en me levant à 2h du matin, mais putain, j'aurais été richissime! Mais j'aurais été richissime! La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle ou encore l'indexation des salaires sur l'inflation. Pour que le salaire paye mieux qu'aujourd'hui, quoi. Un catalogue précis complété par une déclaration choc mardi sur France 2, dont on a beaucoup parlé, je suis hostile à l'immigration pour le travail. Dans le détail, le député de la Somme ne s'oppose pas à la régularisation des travailleurs sans papier, mais veut combattre l'idée de s'approvisionner en main-d'œuvre étrangère pour prendre en charge les métiers pénibles et préférerait mieux encadrer leurs conditions de travail. Donc là, ça provoque un gros débat à gauche, cette histoire. Il a full raison, me dit Alice X-Dream à ce sujet. Pirate, apparemment avec ta prime de départ de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça va aller Samuel Etienne.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
T'inquiète, on en reparle en début de semaine de ça, mon chouchou. Étranger ou pas, améliorer les conditions de travail, me dit Lulu. Et on finit avec Raphaël Glucksmann. En 2025, les militants de son mouvement Place Publique ont planché sur l'acte 1 de leur vision pour la France. C'est bien de se pencher un petit peu sur le fond. Mais cette première esquisse achevée en juin doit désormais être convertie en véritable projet présidentiel sous la coordination de Marguerite Cazeneuve, ex-numéro 2 de l'assurance maladie, ancienne conseillère retraite de Macron et de Philippe, lors du premier quinquennat. Glucksmann a prévu de défendre ses grands principes sur l'identité française, la souveraineté, l'écologie et l'Europe lors d'un meeting le 21 mai. Et dans un livre qui sera publié 6 jours plus tard. Voilà pour Glucksmann. Les deux ou trois qui écrivent rend l'argent avec. Heureusement que vous mettez des capas, vous, hein, sinon je vous rajoute dans ma petite liste. Hein. Ma petite liste de je vous dirai bientôt de quoi. Oh mon Malou. Ça va? Fais attention, hein. Tu voulais chercher quelque chose? Ok. Oui? Dis-moi. Tu sais, j'ai parlé de toi dans le live. J'ai dit quand on a vu, tu sais, ce que disait Trump là sur quand il disait sur l'Iran là. La destruction là. Ouais. Bah, j'ai parlé de ça, j'ai dit que tu m'avais posé la question. C'est une très bonne question. Je vous dis au chat que Malo m'a interrogé sur Trump et l'Iran hier soir. Pas facile. Ça va, ma puce? Tout le monde va bien? Il me reste qu'un seul sujet, je crois. On mange où ce midi? Ok, tu me dis. Je suis dans les temps, je suis bien. Ça va? Ah, il y a un truc qui est tombé. Bisous. Non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est gentil. Plaisir quand la famille passe. Parce que dans mon petit studio de stream, il n'y a plus la famille là maintenant. Ça fait plaisir là de voir la famille qui passe. Si, t'as pas eu ton gâteau? Si, 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 j'ai eu mon gâteau. Mais on me l'a apporté au début du live. Je l'ai le gâteau, je l'ai le gâteau. Il est là. Vous voulez que je vous le montre? Il est là. J'en ai mangé. J'avais deux tranches de cake. Maison, maison. Et il m'en reste une deuxième. Montre quand même le cake. Voilà, il est beau. C'est un cake au raisin avec des petites pépites de chocolat. Attends, on voit pas bien. Voilà. Voilà. Petit cake là. Bon, ce qu'ils savent pas, c'est quand je me lève pour lire les journaux, je tape dans la cuisine. Ce matin, je me suis tapé un yaourt, un verre de jus d'orange et un chocolat et un nougat. Quand ils m'apportent des gâteaux le matin, ils pensent que j'ai rien eu avant. En fait, j'ai Oh, ça sent la cuisine d'ailleurs là. La porte s'est ouverte, elles sont bonnes les cuisines là. Allez, on enchaîne avec le dernier article sur ce gros dossier présidentiel de ce 2 mai, sachant que ce samedi, c'est le dernier jour de stream au Maroc, on se retrouvera après lundi. Lundi, alors, non, ah non, 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 il y a un monde où dimanche je stream parce que je rentre au cours de la journée. Peut-être que dimanche soir, il y aura peut-être un live. Bon, en tout cas, lundi matin ou plus tard. Je suis content parce que du coup, cette semaine de vacances en famille au Maroc, elle aura quand même été marquée par 5 streams. L'idée, c'est que ça s'arrête jamais vraiment ici. Merci Captain Simu. Merci pour le soutien. Voilà, je suis assez content de ça. Ça, c'est cool. Même si le setup est un petit peu fragile par moment. Et pardon pour les deux coupures de ce matin. T'as bien profité au Maroc? Oui, au niveau du bide, oui. Au niveau du bide. Mais on reprend le sport lundi. On reprend le sport lundi. Alors, troisième sujet et dernier article de cette revue de presse. L'extrême droite, Bardella et Marine Le Pen qui tentent d'accorder leur violon. Sur quoi? Alors, il y a plusieurs articles ce matin sur le sujet, puisque c'est au lendemain d'un meeting à Mâcon entre les deux têtes du RN. Donc il y a des articles dans Le Parisien, dans Libé, dans un peu partout. Et puis là, j'ai choisi celui de Mediapart qui me semblait assez clair. Ouais. À Mâcon, Marine Le Pen et Jordan Bardella tentent d'accorder leur violon sur l'économie avant 2027 parce que. Même si eux tentent de minimiser les divergences, beaucoup disent quand même que les programmes économiques de Bardella et de Marine Le Pen ne sont pas les mêmes. Donc quel est le programme économique du RN? Lequel des deux? Lors du meeting du 1er mai, les deux potentiels candidats à la présidentielle ont tâché de faire la synthèse entre l'opération séduction menée par Bardella auprès du patronat. Vous savez que Bardella a été reçu pour la première fois par le conseil exécutif du MEDEF. Il y a quelques jours, et la fibre sociale incarnée historiquement par Marine Le Pen avec ses propos, ses promesses ces dernières années envers la classe populaire, sur la question des retraites notamment, etc. Bardella a confondu l'Iran avec l'Irak hier? Non, j'y crois pas, Camille. Non, c'est impossible. Non, je te crois pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Non, 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 non. Non, non, c'est impossible. Personne ne peut faire. Non, 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 vraiment. Les mecs, ils écoutent l'info toute la journée. Ah si. Ah ouais. Ah oui, t'as raison. Eh merde. Eh oui. Et c'est vrai. Eh oui, tout à fait. Et il a confondu. Ah, oh, en même temps, c'est presque pareil. Oh. Donc c'est Denis Meseglia, un député qu'on connaît bien puisqu'il est streamer aussi. Qui en parle notamment. Fais voir. Oh, Iran-Irak.
Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Les approvisionnements sont perturbés. Et ce sont les Français les plus modestes qui paient la facture. Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Les approvisionnements sont
Ah, vous voyez
perturbés.
pas? Ah, pardon. Faut... Ah oui, c'est vrai, parce que ça a cut. Attends, je vous le remets. Vous avez juste le son. Voilà, je vous le remets. Ah, vous voulez l'image. Enfin, ce qui est important, c'est le son, là. Hein. Toujours pareil. Hein. Ah, c'est pas le côté beau gosse. C'est les mots. Bah, c'est un lapsus. C'est un lapsus.
Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Les approvisionnements sont perturbés. Et ce sont les Français les plus modestes qui paient la facture.
Au moins, il y met de la conviction. Hein. Au moins, il y a un truc un peu, tu vois, au niveau de la. Tu vois, il y a une espèce de. Hein? Encore un petit coup?
Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Les approvisionnements sont perturbés. Et ce sont les Français les plus modestes qui paient la facture.
Moi, je voudrais saluer le ton. Voilà. Ah, c'est un lapsus. C'est un lapsus. C'est un lapsus. C'est un lapsus.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
C'est un lapsus. Il parle de salle de bouche, Seigneur. Non, j'ai vu deux messages dans le chat un peu perdu en mode. Non, mais Samuel, tu comprends pas. Il parle de la guerre contre l'Irak déclenchée par l'Amérique de Bush. Non, non, il parle pas de ça du tout. Il parle de la hausse des prix du carburant pour les consommateurs français qui est provoquée par la crise au Moyen-Orient et notamment le blocage du Strait d'Ormuz. Il suffisait d'écouter ce que vient de dire Monsieur Bardella. Donc, je veux bien plaider pour le lapsus, mais les amis, à un moment, faut pas non plus inventer n'importe quoi. Il a juste confondu l'Iran et l'Irak, deux pays qui se sont fait la guerre d'ailleurs pendant des années, qui se détestent. Non, bien être gentil, mais faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc, lisons quand même l'article ici qui est avec nous. Donc, sur les programmes économiques de Messieurs Bardella et Marine Le Pen. Donc, vous aviez raison, effectivement, il a confondu les deux pays, mais pour moi, ça n'est qu'un lapsus. De l'aveu même de Marine Le Pen, ce meeting du 1er mai à Mâcon, donc c'était hier, on est à la pointe de l'actu ici, devait permettre de parer aux sottises qu'elle dit observer ces derniers temps sur les plateaux et en ouvrant les journaux concernant la philosophie économique du RN. En clair, il s'agissait pour Marine Le Pen de tenter de prouver qu'il n'y aurait pas une feuille de papier à cigarette entre la ligne étatiste et souverainiste qu'elle incarne, voilà, et le tournant libéral que cherche à faire prendre son dauphin Jordan Bardella. Libre 55 me dit, mais c'est pas Bardella qui salue la victoire de Trump? Si, pourquoi tu poses la question? Coquin va. Coquinou va. Moins maintenant, moins. Le RN s'est beaucoup désolidarisé, a pris beaucoup ses distances avec Trump ces derniers jours, ces dernières semaines. Allez, ça peut arriver de se tromper, hein. Ça peut arriver de se tromper. Ce meeting était aussi le dernier de la chef de file du RN à l'Assemblée avant le 7 juillet, date de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens, et qui pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027. Voilà. Et donc c'est peut-être la dernière fois qu'on voit en meeting, avant le fameux 7 juillet, les deux ensemble. Si l'état-major du RN planche déjà sur le programme, tu m'étonnes, rien ne sera figé avant cette échéance fatidique du 7 juillet. Ni l'un ni l'autre n'avons envie d'être coincés par un projet, a concédé Marine Le Pen juste avant son discours. Donc il semblerait donc quand même que Marine Le Pen reconnaît qu'il y a des divergences. Le premier qui dit divergence dans le chat, je lui casse la gueule. Il y a des divergences entre les deux, puisque elle dit ni l'un ni l'autre ne veulent être coincés par un programme. Semble oublier que ses lieutenants martèlent officiellement depuis des mois que les deux figures du parti seraient interchangeables en cas d'empêchement de la première. Marine Le Pen dit non. Je vous vois ceux qui disent divergence, hein. Je vous vois. Il y a quelques jours encore, le duo peinait à accorder ses violons au sujet, par exemple, des bénéfices de Total Énergie, hein, les super bénéfices provoqués par la flambée des prix du pétrole, provoqués par la guerre en Irak, selon un responsable de premier plan du paysage politique français. Interviewé par BFM, Jordan Bardella n'a pas fermé la porte à une taxation de ses super profits avant de s'empresser de préciser qu'il ne voyait pas de priorité dans le fait d'inventer des taxes et des impôts dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires. Donc voilà, Est-ce que c'est bien la peine d'inventer une nouvelle taxe, un nouvel impôt dans un pays déjà très imposé? A dit Bardella, une sortie censée rassurer les milieux économiques que le président RN n'en finit plus de séduire. Le papier rappelle qu'il a été reçu par le MEDEF récemment. Mais quelques minutes plus tôt, avant cette intervention sur BFM, Marine Le Pen avait rappelé sur X, le réseau social, que son parti plaidait depuis des années pour une taxation exceptionnelle de ce qu'on appelle les super profits. Devant environ 5 000 sympathisants à Mâcon, dans une salle chauffée à bloc au chant des sirènes du port d'Alexandrie et de Claude François, des Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier, le tandem s'est donc attelé à essayer de gommer leurs différences. Dans l'exercice de contorsion rondement mené, Marine Le Pen a défendu l'idée, là il faut écouter là, a défendu l'idée, Marine Le Pen, d'une position éminemment équilibrée entre l'interdit socialiste et le laisser-faire de l'ultralibéralisme. Une voie médiane qui n'est ni le tout marché, ni le tout État, a-t-elle résumé. Voilà. En ce 1er mai, la triple candidate à la présidentielle est venue rendre hommage à ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt comme ceux qui veillent la nuit, ceux qui produisent, ceux qui soignent comme ceux qui protègent, déplorant la souffrance des travailleurs pauvres. Elle a rappelé l'importance des conquêtes sociales arrachées de hautes luttes, telles que la sécurité sociale. Mais Marine Le Pen a aussi promis en creux que son parti pourra, s'il arrive au pouvoir, défendre à la fois les intérêts des ouvriers, des ouvrières et des employés, comme ceux des chefs d'entreprise. Qu'il s'agisse de PME, des groupes du CAC 40. Après cette tirade sociale, l'héritière de Jean-Marie Le Pen a toutefois tenu à rassurer ses troupes. Elle n'a rien d'une socialiste qui ne savourait pas, ni d'une marxiste refoulée. Marine Le Pen dit: moi, présidente, je soutiendrai à la fois le CAC 40 et les travailleurs. Pour l'approuver, la députée RN a dénoncé le supposé assistanat endémique entretenu et encouragé par les gouvernements successifs. On soutient les travailleurs, mais on dénonce l'assistanat. Au boulot! A crié une femme dans le public. Marine Le Pen, sur scène, a voulu parler aux chefs d'entreprise également, en fustigeant le bidonville normatif dans lequel ces entrepreneurs vivent, et en promettant également de ne jamais reprocher l'aisance ou le patrimoine que quiconque aura légitimement acquis. Bon, la taxe Zuckman, le RN, pas trop, hein. Pourquoi devrions-nous choisir entre le patron et l'ouvrier? S'interroge Marine Le Pen. Entre le fonctionnaire et le salarié du privé? Entre l'étudiant, l'actif et le retraité, a-t-elle résumé, très loin de l'adage selon lequel diriger, c'est décider. Tentative de synthèse, donc, qui a eu le mérite de permettre à Bardella de dérouler son discours pro-entreprise, désormais appris par cœur, sans vouloir oublier cette France du travail. Sur scène, Bardella a lui aussi promis de défendre à la fois les travailleurs courageux et les entrepreneurs audacieux. Nous libérerons les entreprises des normes excessives et des lourdeurs administratives, a affirmé le président du RN, avant de garantir la paix fiscale aux travailleurs et travailleuses comme au patronat. Si Marine Le Pen et Bardella ont tous deux chanté une ode au travail et aux conquêtes sociales, les éléments de langage n'avaient pas été passés à certains nouveaux maires RN. Ah, zut, cacophonie. À Liévin, par exemple, le maire nouvellement élu RN a annulé la cérémonie du 1er mai. Ah, ah zut. Ah ouais. Donc Marine Le Pen célèbre le 1er mai et les acquis sociaux des travailleurs. Et à Liévin, le maire RN a annulé la cérémonie du 1er mai. Ah. À Carcassonne, dans l'Aude, Christophe Barthès a décidé de priver de leurs locaux municipaux plusieurs syndicats ayant manifesté contre l'extrême droite dans leur ville quelques jours plus tôt. Ah ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas entendu Marine Le Pen. Ce que nous avons commencé à faire à l'échelon municipal, nous sommes prêts à le faire au plus haut niveau de l'État, a toutefois promis Louis Alliot lors du meeting à Mâcon. Eh bien, c'est bien le sujet. Voilà. Bon. Après, est-elle si importante que ça, la différence entre Bardella et Le Pen sur un plan programmatique? Comme on parle d'un parti qui n'a jamais été au pouvoir, qui n'a jamais vu ses idées, valeurs, programmes affronter la réalité des faits, ces promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter aujourd'hui. Donc, est-ce que... Mais c'est vrai que ça pose toujours la question de savoir comment on doit qualifier le programme économique du RN. Est-ce que le programme économique du RN est un programme économique libéral? Est-ce que le programme économique du RN est pro-entreprise, y compris grosses entreprises? C'est un peu le discours de Bardella. Est-ce qu'au contraire, il est pro-travailleurs et petites gens? Voilà. Ça, c'est le discours de Marine Le Pen depuis des années. Est-ce que c'est les deux? Semble-t-il dire tous les deux, en disant que ce n'est pas contradictoire. Est-ce que la politique du RN qui serait menée en 2027, c'est celle qu'on voit à l'œuvre dans les mairies RN où ce parti est aux manettes depuis alors quelques années parfois, parce qu'il y a eu dernière municipale, mais il y a eu d'autres mairies RN? C'est la question. Est-ce que de toute façon, c'est cette question du programme économique qui fera que les gens vont voter ou pas pour le RN en 2027? Autre question d'ailleurs. Ça, on ne sait pas. On n'est pas dans la tête des électeurs, hein, d'une manière générale. Merci les amis. Je voudrais terminer par une dernière chose. Voilà. Vous rappelez que depuis 3 jours, deux, trois jours ici, on a décidé de se mobiliser pour une pétition. Voilà. Une pétition juste, une pétition essentielle, une pétition importante. Pétition, point d'exclamation, pétition dans le chat. Voilà. On a découvert, je vous l'épingle. On a découvert à l'occasion d'un dossier du Parisien il y a 2 jours. Sur la lutte contre les féminicides en France, ce fléau qui ne recule pas suffisamment quand on le compare par exemple aux réussites que certains pays européens comme l'Espagne ont réussi à enregistrer contre ce fléau. Constatant en France que les textes étaient peut-être parfois là, parce qu'il y a eu une évolution de la législation, mais que les moyens pour appliquer cette lutte contre les féminicides est-il très insuffisant, par exemple, par rapport à l'Espagne. À la faveur de ce dossier dans le Parisien, on a découvert, un peu par hasard, l'existence d'une pétition réclamant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, pour faire de la publicité autour de cette question, pour qu'une commission d'enquête parlementaire, comme celle sur l'audiovisuel public pendant X mois, puisse recevoir des experts, des victimes, des représentants d'associations. Voilà. Pour évoquer pourquoi ce fléau existe, pourquoi on en est là et pourquoi on n'a pas réussi à l'enrayer en France. Cette commission d'enquête parlementaire me semble d'utilité publique. Il y a, je vais vous la montrer, il y a une pétition qui a été lancée, qui est ici, il y a 4 mois. On l'a découvert, cette pétition, il y a 2 jours ici. Elle avait 112 signatures. Et on s'est dit, pourquoi cette pétition qui est parfaite dans son texte, hein, vous la lirez. Signé Jacky Achoud, qui est un monsieur qui a perdu sa femme tuée par l'ex-conjoint de celle-ci. Que cette pétition dont le texte est parfait, extrêmement clair. Hein, on s'est dit, mais pourquoi cette pétition a aussi peu circulé? Donc on s'est dit qu'on allait se mobiliser à la hauteur de cette petite chaîne Twitch pour que cette pétition circule, pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit qu'on lui donne de l'écho, pour que vous puissiez la lire, que vous puissiez éventuellement la partager à votre entourage, à vos amis, à votre famille, que vous puissiez en parler aussi à vos streamers, streameuses préférés. On me dit par exemple que Ponce en a eu connaissance également et qu'il en a parlé dans son live. Nous sommes à 6068 signatures. En 2 jours, on est parti de 112 signatures. Imaginez. Si toutes les personnes de bonne volonté, citoyens, citoyennes, créateurs, créatrices de contenu, se penchent ne serait-ce que quelques minutes sur ce texte, cette pétition est passée de 112 à 6068 signatures en 48 heures. Cette pétition, pour moi, elle doit passer les 100 000. 100 000 signatures, elle sera mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale. Elle sera mise en avant. Les gens pourront la voir beaucoup plus facilement. Elle est passée les 500 000. Elle permettra à l'Assemblée éventuellement de s'emparer de ce sujet et d'en faire un débat dans l'hémicycle. Donc ici, on s'est dit que ce serait un juste et noble combat que de parler régulièrement de cette pétition. Donc on ne lâche pas l'affaire et on va mener ce combat ici. Voilà. 6 068 signatures. Je vous en reparle à mon prochain live. On en parlera systématiquement. Voilà. Et n'hésitez pas, très important, parce que ici on a un bel écosystème, mais ce n'est que ma chaîne Twitch, à en parler aussi à vos streameuses et à vos streamers préférés en leur disant, tiens, jette un coup d'œil à cette pétition. Il y a un truc qui est en train de se passer, c'est un combat important. Regarde, si jamais tu as envie toi-même de faire profiter ce combat de ta notoriété, n'hésite pas. Voilà. Sans mettre la pression, bien sûr. Il ne s'agit pas de prendre les créateurs de contenu en otage, mais pour le coup, la pétition est vraiment cool. On fait ça? Ok. Mister Groove me dit ça, mais il faut prévenir les élus car ce sont eux qui ont les audiences les plus politisées. La PPL contre la loi Yadon, par exemple, avait mis du temps avant d'avoir de la visibilité. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Alors moi, je parle pas beaucoup avec des politiques, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, merci de votre patience puisqu'on a été cut à deux reprises. La connexion est un peu fragile ici depuis mes vacances du Maroc. Merci de votre patience. À partir de prochain stream, dimanche soir ou lundi matin, on retrouvera de la connexion, de la fiabilité et on sera plus embêté. Mais il me semblait important de proposer ces 5 lives cette semaine, même dans des conditions un petit peu bricolées. Qui est en live actuellement? C'est marrant ça. J'ai un tellement mauvais débit que je n'arrive pas à afficher les chaînes Twitch que je veux regarder là. Affreux. Bon, en tout cas, je vois Presea par exemple, qui est en live sur Warhammer. Presea, qui est une streameuse que j'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à lui parler de cette pétition et de parler de cette pétition à la communauté de Presea. Voilà. Sans être lourd, hein. Mais je pense que ça peut l'intéresser. Hier, on l'a fait également avec la commune de je sais plus qui. Une autre streameuse. Merci MMG. On y va? Le lien de la pétition, il est épinglé en haut, mon ami. Regarde, il est en haut du chat. Merci de m'avoir accompagné toute cette semaine en vacances. Je vous retrouve au plus tôt dimanche soir en live sur ma chaîne Twitch, lundi matin pour la revue de presse. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Bon week-end, merci pour tout. Je charge le raid. Il est en train de charger. Et merci pour cette semaine. Vous étiez formidable. 3, 2, 1. Je sais pas quelle heure il est, vous. 13 heures. Bon appétit chez vous aussi. À très vite. Merci encore.